on utilise un langage qui ressemble beaucoup à un jargon qui donne l'impression qu'il s'agit de questions réservées à des experts, à des spécialistes, et que la majeure partie de la population ne pourrait pas comprendre exactement de quoi il est question, ce qui est, à mon avis, et à l'avis d'autres personnes, est un pur bluff idéologique. Et que ce qui se passe actuellement dans les villes, en France et ailleurs d'ailleurs, mais on va parler plus spécifiquement des transformations des villes françaises, est parfaitement compréhensible d'un point de vue politique sans utiliser ce jargon destiné à intimider et finalement à réserver le discours sur les transformations urbaines à des spécialistes. Quand je dis spécialistes, c'est à la fois non seulement des enseignants, des chercheurs, des architectes, des urbanistes, mais aussi des élus locaux et des politiciens et des journalistes spécialisés. J'ai fait un tour tout à l'heure en visite semi-guidée, si je peux dire, avec les gens qui m'ont invité ici, dans le centre de Poitiers, qui est en pleine. Alors là, déjà, j'utilise un langage volontairement spécialisé. Dans les milieux qui interviennent sur l'espace urbain, on parle beaucoup, concernant les transformations actuelles qui affectent les villes, de mutations urbaines. On parle beaucoup de mutations. Alors je vous dis tout de suite, et vous le savez sans doute, que le mot mutation est un concept ou une notion qui vient de la biologie, donc une science dure, une science sérieuse, transformation des espèces, métamorphose des espèces, et quand on applique ce terme de mutation aux villes, on a l'impression qu'il s'agit de phénomènes de quasiment naturels, irréversibles, que l'on ne peut pas discuter, c'est quelque chose qui est finalement... Vous avez des élus locaux qui disent « bon, ben, on transforme les villes parce qu'il faut s'adapter aux mutations actuelles de la société en général, et ces mutations de la société doivent se traduire dans l'espace. » Et parmi les dites mutations, parmi les transformations, il y en a certaines qui portent sur le centre des agglomérations, ce qu'on appelle le cœur des villes. Là aussi, le mot « cœur » est extrêmement douteux, dans la mesure où vous savez que ça connote, ça traduit quelque chose d'affectif. Hein, quand on dit « cœur », on pense à des sentiments, à l'identité des habitants, etc. En fait, il s'agit de transformer les parties centrales des agglomérations, notamment les centres historiques. Dans quel sens ? Ce que j'ai pu entrevoir au cours d'une promenade, disons, de trois quarts d'heure dans le centre de Poitiers, c'est ce qu'on peut observer depuis, on peut dire maintenant, une bonne trentaine d'années, tout dépend quand ça a commencé, dans la plupart des centres des villes françaises, mais non seulement françaises, c'est ce qui se passe aussi dans les centres des villes espagnoles, des villes allemandes, des villes anglaises, voire de certaines villes américaines, pas toutes, de villes espagnoles, donc portugaises aussi. Et c'est quoi ? C'est à la fois une transformation spatiale, physique, matériel, et une transformation sociale. La transformation spatiale, elle est désignée dans le langage, justement, ce qu'on appelle, nous, à l'extrême gauche, disons, la novlangue, hein, à savoir ce langage du pouvoir, qui est destiné à la fois à valoriser ce qui se passe et à masquer les enjeux réels et la logique de classe qui est derrière tout ça, sous différentes appellations. Quand on parle des transformations en cours dans les centres, on parle de restructuration, on parle de rénovation, on parle de réhabilitation, on parle de renouvellement urbain, on parle de revitalisation, on parle de régénération. Tous ces mots-là sont les mots que l'on rencontre normalement dans les discours aussi bien des élus locaux que des spécialistes, des experts, des journalistes, etc. Physiquement, effectivement, il y a transformation. Mais qu'est-ce qui se cache ? Quelle est la dynamique qu'il y a derrière ? C'est une dynamique qui réussit, il faut le dire, à transformer des cœurs de ville qui ont été pendant très longtemps, vous, pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez pas connu ça, des cœurs de ville qui ont été délaissés, abandonnés, parce que considérés comme correspondant à des périodes révolues. On les a laissés se dégrader, tomber parfois en ruine, Parce qu'il y a eu une époque qui a duré jusque dans les années, début des années 70, où la modernisation de la France passait par la modernisation des villes. Alors il y avait deux choses. Premièrement, on construisait à l'extérieur des centres-villes, et à l'intérieur des centres-villes, ce que l'on faisait, c'est de détruire. On détruisait, on disait par exemple à l'époque, des îlots insalubres, un habitat donc dégradé. Et il fallait moderniser tout cela en y implantant des édifices nouveaux, hein, en général flambant neufs, de style rectangulaire ou carré, avec des nouveaux matériaux. Et la doctrine était un peu, si je peux dire, en empruntant une parole de l'international, mais pas du tout utilisée dans le sens des communards ou d'autres, du mouvement ouvrier, du passé urbain, faisons table rase. Moderniser la ville, ça voulait dire faire pénétrer plus facilement l'automobile, mettre des bâtiments qui soient adaptés à des nouvelles fonctions. Donc on ne se préoccupait pas du tout du tissu urbain ancien. Or, à partir des années 70, avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président de la République, qui s'appelle toujours, d'ailleurs il n'est pas encore mort, Valéry Giscard d'Estaing, on a changé complètement de cap. Et ça ne s'est pas seulement produit en France, je le répète. La mode a été de régénérer, revitaliser, conserver, réhabiliter, rénover les centres anciens pour deux raisons. Officiellement, je dis bien officiellement, c'était il y a un patrimoine à préserver pour consolider ou renforcer l'identité des villes. Parce qu'on s'apercevait que l'architecture dite moderne, elle était complètement stéréotypée, standardisée, elle ne permettait pas de distinguer les villes les unes des autres, et que les habitants avaient besoin de retrouver leurs racines, de s'approprier ou se réapproprier leur ville en exhumant du passé, en conservant, en restaurant, en consolidant, je le répète, ces traces du passé. Ça, c'était le discours officiel. Alors, ça donnait du genre, il faut retrouver un urbanisme à la française, il faut rompre avec cet urbanisme apporté des États-Unis ou d'ailleurs qui était complètement anonyme, où on retrouvait les mêmes édifices partout, etc., les supermarchés, les autoroutes, les parkings et tout. Au contraire, il faut restaurer le passé pour regarder vers l'avenir avec une France qui devait être fière de son passé, mais ils disent le même discours, on l'avait aussi bien en Italie qu'en Espagne. Et on a commencé donc à, non plus à faire table rase du tissu urbain ancien, mais au contraire à essayer de le restaurer, on disait réhabiliter. La dynamique sociale qui était derrière tout ça, parce qu'il faut dire qu'avant, si on voulait se débarrasser des vieux quartiers des centres-villes, pas tellement de ceux qui étaient classés monuments historiques, ensemble à préserver, parce que ça jouait pour l'économie de la ville, pour faire venir les touristes. Mais tout ce qui était de l'habitat populaire traditionnel, pourquoi on le détruisait, c'était fort simple, pour remplacer cet habitat traditionnel par autre chose, à savoir des immeubles de standing, hein, des équipements commerciaux modernes, hein, des supermarchés, c'était la modernité, on disait à l'époque la modernisation de la ville. Et ça permettait de déloger les couches populaires qui habitaient au centre vers la périphérie pour faire venir principalement des cadres, des gens des classes moyennes aisées pour occuper des appartements. Alors le mot à l'époque, je viens de le prononcer, c'était des immeubles de standing. Et on a détruit des quartiers entiers en France. Il faut savoir une chose, c'est que la rénovation urbaine, telle qu'on la définissait dans les années 50 et 60, a détruit beaucoup plus de centres en ville en France que les bombardements américains, qui en ont détruit pas mal dans certaines villes, du genre Brest, Le Havre, Lorient ou autres, Royan, etc. Bon, c'est pas les Allemands qui ont détruit le plus de bâtiments pendant la guerre, des villes en françaises, c'est essentiellement les Américains pour justement chasser les Allemands. Bon, fin de parenthèse. Mais la reconstruction en France a été une reconstruction, la rénovation, fondée sur l'architecture dite moderne. L'ancien, on ne voulait plus savoir. Bien, à partir des années 70, changement de cap, je vous l'ai dit, et on va essayer de réhabiliter, donc de conserver, avec l'idée de patrimoine à valoriser. C'est un mot qui vient. Quand vous entendez il faut revaloriser les centres-villes, il faut traduire très clairement par une chose. C'est comment faire en sorte qu'avec on met en valeur les centres-villes, ça veut dire en fait faire du fric avec avec les investissements que l'on injecte dans les centres-villes, pour que ces centres-villes, et là c'est la logique réelle, accueillent désormais des classes moyennes aussi, aisées, généralement cultivées, qui apprécient beaucoup l'ambiance des centres-villes, notamment les centres-villes qui renvoient au passé prestigieux de l'histoire respective des différentes villes de France et d'ailleurs. Ces opérations sont soit réalisées, soit en cours. Bon, alors, j'ai vu ce matin à Poitiers, on s'amuse finalement à piétonniser les places, à implanter des arbres, à mettre des nouveaux lampadaires, généralement de style un peu rétro, ancien, à donner la priorité aux espaces publics qui vont accueillir des manifestations diverses, généralement culturelles et festives. Tout ça permet de faire augmenter le prix des loyers ou des ventes d'appartements de tous les immeubles qui bordent ces espaces publics réhabilités, avec pour conséquence, évidemment, de chasser les couches populaires qui demeurent encore dans ces centres-villes. C'est une logique que l'on retrouve partout, aussi bien à Paris, dans les quartiers du 19e et du 20e, les quartiers prolétaires traditionnels, qu'au centre de Grenoble, au centre de Toulouse, au centre de Lille, hein, qui est maintenant le centre de Lille aujourd'hui, est devenu un centre réservé à des gens qui sont des salaires ou des revenus réguliers et qui peuvent se payer le centre, tandis que les ouvriers, les employés, et ne parlons pas des gens au chômage, sont expulsés, évincés et expulsés vers les périphéries. C'est la logique. C'est une logique que les sociologues ou économistes ou urbanistes radicaux. Alors radicaux, c'est un terme qui vient des États-Unis. C'est en général des sociologues et des spécialistes marxistes, d'un terme de conception marxiste, si on peut dire, qui analysent les logiques de classe qui sont à l'œuvre dans les transformations des villes aujourd'hui. Je ne vous parle pas de ce qui se passe en périphérie. Je ne parle pour l'instant que de ce qui se passe au centre. Mais il faut bien le dire que ce qui se passe au centre en périphérie est en rapport avec ce qui se passe au centre. Puisque la dynamique principale, c'est de délocaliser en périphérie les activités non rentables ou peu rentables et les populations dites non solvables pour réserver l'accès à la centralité urbaine à une élite. Faut être clair. C'est partout pareil. Il n'y a pas d'exception. La seule exception qui demeure actuellement, mais ça n'est qu'un retard, c'est à Marseille. Marseille est la seule ville de France actuellement où il y a encore une présence dominante des classes populaires au centre de la ville. Et malgré toutes les manœuvres de la municipalité actuelle, qui est dirigée cette fois-là par... En général, que ce soit de droite ou de gauche, c'est exactement de droite ou de gauche institutionnelle, hein, officielle, c'est la même politique. La municipalité de droite dirigée par un maire, son nom c'est Jean-Pierre Godin, de Marseille, n'est pas parvenue encore à déloger les couches populaires du centre de Marseille. C'est la seule ville où le centre est encore massivement peuplé d'ouvriers, d'employés, d'ailleurs en plus avec une forte proportion de populations d'origine immigrée. Bon, immigrés de la deuxième, troisième génération, la plupart ne sont pas immigrés récents, ils en sont déjà à la troisième génération. Pourquoi? Mais je vous le dis tout simplement, parce que les bourgeois marseillais ont peur d'habiter au centre. Ils trouvent que c'est dégradé, que c'est dangereux, ils ont leurs beaux quartiers qui sont situés au sud de Marseille, ou alors en périphérie dans les collines, du côté d'Aix et compagnie, et ils ne voient pas pour quelle raison ils iraient dans le centre. Bon, il y a un problème, c'est la réticence des classes aisées à venir habiter au centre de Marseille qui explique l'insuccès des politiques dites de réhabilitation du centre-ville. Mais pour toutes les autres villes, c'est la logique dominante. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, si c'est, est-ce que ça dépend seulement des élus locaux? Parce qu'on pourrait dire, finalement, pourquoi les élus locaux, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais généralement ceux qui sont à l'avant-garde de ces opérations, je vous le signale tout de suite, ce sont de nettoyage, si on peut dire, on ne dit pas ça officiellement en France. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, quand on veut nettoyer le centre de ville, je dirais, de certaines villes, parce que la plupart des villes américaines ne sont pas construites sur le même modèle que les villes européennes. Mais dans quelques villes, comme New York, comme San Francisco, ou la Nouvelle-Orléans, bon, avec le cyclone, ça a quand même dégagé pas mal de populations du centre. Beaucoup sont morts, d'autres noyés en partie, population noire. Mais aux États-Unis, on utilise des mots pas du tout euphémiques, enfin, qui cachent la vérité, comme chez nous. Aux États-Unis, on dit nettoyage du centre-ville. Nettoyage, c'est pas nettoyage seulement au plan physique, c'est nettoyage social. On déloge toutes les populations pauvres. En France, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de nettoyage parce que il y a une tradition de gauche qui fait que faut, même quand on fait une politique de droite, on ne peut pas utiliser des termes trop crus pour désigner la politique que l'on fait. Alors on utilise d'autres choses. On parle de mixité sociale. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut mélanger des riches et des pauvres. On ne dit pas riches et pauvres, je le signale tout de suite. Dans le langage dont je vous parlais au début, dans le langage officiel, on dit catégorie modeste. On dit population vulnérable. On dit couche défavorisée. On ne dit pas pauvre, et on dit encore moins prolétaire, classe dominée, classe exploitée. Hein, ça, pas du tout. Ça, c'est du langage politique, pas objectif, marxisant, extrémiste, etc. Il faut utiliser toujours des euphémismes pour atténuer, j'allais dire, la violence des rapports sociaux qui peuvent exister, pas seulement sur les lieux de travail, mais également sur les lieux d'habitation. Alors, la question que je posais, donc, c'était pourquoi tous ces élus, partout, on peut dire presque partout, c'est valable en Allemagne aussi, font-ils la même politique? Alors, vous allez me répondre, parce qu'ils représentent les mêmes classes. Effectivement, on peut dire que, jusqu'à une preuve du contraire, il y a une classe dominante, la bourgeoisie qui a changé, mais c'est plus la bourgeoisie du 19e siècle, elle a changé, elle est dans d'autres secteurs, elle se manifeste de manière différente, le capitalisme s'est transformé, on n'est plus à l'époque du capitalisme industriel classique. Si je peux résumer les traits nouveaux du capitalisme, il y en a quatre. Un, il s'est technologisé, nouvelle technologie. Deux, il s'est financiarisé. Il s'est aussi, flexibilisé, marché du travail est flexible. Et puis la troisième caractéristique, je ne me souviens plus laquelle d'ailleurs, mais le capitalisme n'est plus exactement le même que jadis. Donc son inscription dans l'espace n'est plus la même. Alors, elle n'est plus la même et ses impératifs ne sont plus exactement les mêmes. C'est-à-dire, il s'agit toujours de dominer l'espace urbain, mais ces transformations n'obéissent plus à la même logique aujourd'hui qu'il y a que dans les années 60 ou 50. La reconquête des centres-villes, puisque on utilise quelquefois ce terme, il faut reconquérir les centres-villes, et c'est un terme un peu belliqueux qu'on n'utilise pas trop souvent, parce que qui dit conquête dit affrontement, dit qu'il y a des ennemis, donc officiellement il n'y a pas d'ennemis, mais il s'agit, je le répète, de déloger les classes populaires. La reconquête des centres-villes a pour raison d'être principale une tendance globale de l'évolution des villes capitalistes qui est ce qu'ils appellent, eux, la métropolisation. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est très simple, ça veut dire la tendance lourde, dominante, à la concentration dans certaines villes, peu de villes, des activités décisionnelles, des activités de commandement, des activités de direction, les sièges sociaux, les endroits, si on peut dire, les quartiers généraux des firmes ou leurs succursales, avec tous les services correspondants, juridiques, conseils, publicité, etc. Tout ça doit se concentrer sur certains pôles urbains. En termes techniques, on appelle ça des phénomènes de polarisation spatiale des activités, décisives et fondamentales pour le fonctionnement du système capitaliste. Et ce qu'il y a, c'est que les villes, ces villes qui vont concentrer cela, elles sont triées sur le volet. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire. Alors c'est un peu la course, si on peut dire, la concurrence, la compétition entre les villes, pour attirer les sièges sociaux, les investisseurs, les promoteurs, les patrons de firmes, et en plus, ce qui va avec, les laboratoires, les centres de recherche, toutes les activités sur lesquelles repose la dynamique du capitalisme. Et pour ça, il faut que les villes soient accueillantes pour ces activités-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les villes au sens classique du terme, les communes, ne sont plus assez grandes pour recevoir tout ce monde-là, toutes ces activités. Il faut élargir. Et il faut les élargir. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait caser tout ça au centre-ville. Maintenant, ça n'est plus possible. Il faut, il faut prendre, il faut phagocyter l'environnement des villes-centres, si on peut dire. C'est-à-dire que maintenant, la politique est envisagée au niveau des agglomérations. Il y a la ville-centre, la ville principale, les communes proches, appelées banlieues, et même, maintenant, essayer de capter aussi dans cette, ce qu'ils appellent la métropole, certaines zones rurales qui vont être urbanisées, certaines petites villes et petites communes éloignées, pour pouvoir accueillir les nouvelles populations et les nouvelles activités. Parce qu'il y a une division, de même qu'il y a une division sociale du travail au milieu, dans une société capitaliste, il y a une division sociale. Les, ce qu'on appelait, certains géographes qui conseillaient les technocrates de l'aménagement, utilisaient l'expression de tertiaire noble ou de tertiaire supérieur pour qualifier les activités que l'on allait implanter au centre. Hein, tout ce qui était directionnel, hein, je répète. Mais il y a des activités importantes pour le capitalisme qu'on ne peut pas mettre au centre des villes. Il faut les mettre en périphérie immédiate, notamment tout ce qui est centre de recherche, laboratoire, industrie de pointe, université, grandes écoles. Ça, c'est pas le centre, c'est la périphérie immédiate. Et on crée des campus. Aujourd'hui, on appelle ça des pôles de compétitivité qui permettent la jonction entre recherche, enseignement supérieur et industrie dite innovante. Et c'est ça qui forme, disons, aussi les noyaux de la métropolisation. Alors je vous dis entre nous que, par exemple, dans les années 80, il y avait un terme qui avait beaucoup de succès pour qualifier ces villes qui accueillaient à la fois des étudiants, des ingénieurs, des cadres, des enseignants supérieurs, etc. C'était le terme de technopole. Hein. Toutes les villes voulaient être des technopoles. Villes, justement, dont la dynamique repose sur ce qu'on appelle, toujours langage officiel, la synergie, la combinaison avec l'interaction entre enseignement, recherche, industrie de pointe. Et il y avait même certaines villes qui étaient des technopôles, et dans chaque ville, il pouvait y avoir un ou deux technopôles avec un accent circonflexe. C'est-à-dire, dans ces villes, au centre ou en périphérie, il y avait des lieux justement où se croisaient les trois éléments qui composent la technopolisation, à savoir enseignement, recherche, industrie de pointe. Alors, si les maires de la plupart des villes qui peuvent concourir, je vous signale, la plupart des villes françaises sont hors concours, on a une tendance croissante à la polarisation, à la concentration urbaine. Si les maires font tous la même politique, c'est que ils sont tous soumis à la même logique. Cette logique, c'est celle qui régit les rapports sociaux dans toutes les sociétés capitalistes. Elle a été résumée par une formule qui a failli être inscrite dans la, qui avait été inscrite dans la Constitution, qui a été refusée par les gens qui votent, 54% des votants en France. Cette logique, elle était résumée par une formule. Naturellement, elle existe, puisqu'on a pu refourguer une Constitution réduite, votée cette fois plus par les Français, mais par les politiciens regroupés dans le Sénat et à la Chambre, au Parlement, enfin le Parlement réuni, les députés, les sénateurs, on a donc fourgué une nouvelle constitution, refusée par les Français, je répète, votée par les politiciens, à une grande majorité, il y en a qui se sont abstenus chez une partie des Verts, ceux qui l'ont refusé, c'était le Parti communiste. Tous les autres ont voté pour. Ce principe s'appelle la concurrence libre et non faussée. La concurrence libre et non faussée, formulation que l'on doit au staff de celui qui est le père spirituel de cette constitution, à la fin. C'était M. Valéry Giscard d'Estaing, qui à 81 ans continue à sévir comme idéologue de du libéralisme avancé, puisque c'était la formule officielle de son régime. La concurrence libre et non faussée s'applique aux individus, aux entreprises, à tout, dans tous les domaines. Concurrence partout, hein, c'est pas nouveau. Ça a toujours été ça, la dynamique capitaliste. Eh bien, il y a une concurrence, une compétition entre villes pour accéder au rang de métropole. Et la logique est effectivement la même dans toutes les villes. Il faut restructurer le centre-ville pour qu'il accueille donc les activités dites supérieures. Les activités, je le disais, c'est eux qui utilisent ce mot, nobles, celles de commandement. Les activités subalternes, le commerce quotidien, le logement pour les couches populaires, de l'air et de la route, en périphérie. Si je voulais résumer, si on peut dire, le caractère élitiste de cette centralité urbaine qui se renforce, où maintenant on s'appuie sur la revalorisation du patrimoine, parce que la carte culturelle est importante maintenant. Avant c'était très économique, hein, fonctionnalité, efficacité, rentabilité. Maintenant il y a toujours la rentabilité, mais ce qui se vend bien maintenant, c'est le passé. C'est la culture. Donc il faut mettre au centre-ville, il faut mettre en valeur tout ce qui renvoie à la culture, au passé, à l'histoire, aux grands faits d'armes, aux architectes de... Et quand on met un équipement nouveau, on fait appel à des architectes internationaux, des stars de l'architecture, qui peuvent renforcer l'image, comme on dit, de la ville. Vous savez qu'il y a des départements spécialisés, des services spécialisés de marketing urbain, parce que, comme les villes sont en concurrence, il faut vendre les villes, comme on dit, aux investisseurs, vendre les villes aux universitaires, vendre les villes aux promoteurs, c'est ce qu'on dit, avec des images qui soient valorisantes. Et on fait appel à des architectes, justement connus, au plan national, voire même international. Ce matin, j'ai demandé à ceux qui m'accompagnaient qui était l'architecte en chef chargé de réhabiliter le centre de Poitiers. Vous le connaissez peut-être pas, puisque vous n'êtes pas des spécialistes, mais nous, on le connaît très bien. C'est une des stars de l'architecture française. Son nom, c'est Yves Lion. Il a 150 et quelques grouillots qui travaillent pour lui. Il fait aussi bien des opérations architecturales et des immeubles à Dubaï, hein, qu'en Chine, à Shanghai, qu'en France. Hein. Et c'est lui qui est en train de réaménager tous les espaces publics qui se trouvent dans le cœur, le fameux cœur de Poitiers. Bon, alors, si je voulais résumer par une formule la dynamique de cette politique d'élitisation, si on peut dire, du centre-ville. On pourrait dire que le qualificatif qui revient le plus souvent dans le discours, c'est celui haut, H-A-U-T. Premièrement, ça veut dire on attire les activités de haute technologie, innovantes. Hein. Alors ça peut être tout, hein. Ça peut être les nanotechnologies, les microtechnologies, information, communication, informatique, agro-business, enfin tout ce qui est innovant, haute technologie. Deux, en ce qui concerne la population. Population à haut revenu. Mais entre les deux, population à haute qualification. Il faut que ce soit majoritairement des bacs plus 5 ou 6. Haute technologie. Donc, c'est pas la main-d'œuvre, là. Je pourrais dire, on appelle ça, dans le langage de la technocratie aménageuse, la matière grise. Donc, il faut attirer de la main-d'œuvre hautement qualifiée, deuxième âge. Troisièmement, à haut revenu, 4. Pour ces gens-là, il faut, parce que ces gens-là aiment se distraire, aiment se montrer, aiment l'ambiance urbaine, il faut des équipements haut de gamme. Opéra, cinémathèque, médiathèque, palais des congrès, etc. C'est ça la priorité. Et le dernier, haut, c'est quoi? Ben, vous savez qu'on est en ce moment dans une période où l'une des idéologies dominantes, c'est l'écologisme. Tout doit être verdi. Le capitalisme doit être reverdi. On parle de ville durable, parce qu'on cherche à faire durer le capitalisme par toute une série d'aménagements. Et les Américains appellent cela, même les capitalistes américains qui sont très cyniques, contrairement chez nous, on est hypocrites, ils appellent ça froidement le greenwashing, le lavage vert du capitalisme, pour que le capitalisme soit plus accepté. Et d'autre part, en essayant de limiter la pollution, on peut faire durer plus longtemps les choses. Bon, je vous signale tout de suite, j'ai encore lu ça dans Le Monde il y a deux jours, que les accords de Kyoto, tout ça, c'est du bidon, que la pollution augmente, CO2 aussi, et que aucun des objectifs, que ce soit conférence de Rio, Copenhague, Grenelle, tout ça, c'est du bidon, la situation s'aggrave sur tous les fronts, sur le plan écologique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et c'est dans le Monde et c'est dans le Figaro, hein, c'est pas dans des journaux d'extrême gauche. Et le greenwashing, eh bien, il y a le troisième haut qui arrive, là, c'est là, ce qu'on appelle HQ1 en matière d'aménagement et d'urbanisme, à savoir haute qualité environnementale. Alors quand vous mettez haute technologie, haute qualification pour la population active, les têtes pensantes, la matière grise, haut revenu, équipement haut de gamme, plus haute qualité gouvernementale, c'est un lapsus, environnementale, vous avez les 5 piliers de la sagesse de l'aménagement et de l'urbanisme en France et ailleurs. C'est la même chose.
Et oui. Ah oui, on peut m'interrompre à n'importe quel moment, hein, n'importe quel, soit pour émettre une critique, soit une objection, soit demander une précision. Allez-y.
Vous en avez
oublié,
on a le but à haut niveau de
service. Ah bon, ils disent ça, ils me lisent pas. Oui, alors, il faut, à ce propos, tout à l'heure je parlais de novlangue, il faut voir, je lisais tout à l'heure avec ceux qui m'accompagnaient, le discours que l'on lit sur les panneaux qui représente l'avenir sinon radieux du moins riant de Poitiers, c'est un discours qu'on le retrouve partout. Hein? L'harmonie, l'équilibre, la végétalisation de l'espace urbain, enfin tout y est. On a l'impression d'une Disneylandisation permanente de l'espace urbain. Alors là, ce que vous venez de me citer, c'est typique. J'étais il n'y a pas longtemps à Dijon, on a un maire écolo, pas écolo, socialo, mais qui est écolo, c'est le conseiller de Ségolène Royal, Rebsamen, lui, il est pour une éco-métropole, vous voyez. Vous allez à Brest, municipalité PS, là-bas ça s'appelle métropole Brest, BMO. Alors, on ne sait pas ce que c'est BMO quand on arrive. Ça veut dire Brest, métropole, Océane. Alain Juppé, pareil, la métropole, je ne sais plus comment il l'appelle, de l'Aquitaine, il a un autre nom, à Bordeaux. Tout est verdi, vous voyez, et c'est un langage. Alors, on parle de novlangue pour ceux qui ont lu 1984, ou qui ont entendu parler, le bouquin très célèbre de George Orwell, mais Orwell est complètement dépassé. Je vous le signale tout de suite, parce que à l'époque d'Orwell, enfin, quand Orwell a fait cette fiction, il avait comme modèle de ce pays totalitaire où on changeait le langage pour changer l'esprit des gens, en faisant dire aux mots le contraire de ce qu'ils signifiaient, vous savez, la paix, c'est la guerre, on disait c'est la paix. Aujourd'hui, c'est ça aussi. Hein. Bon, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus que des opérations de police internationale pour l'Irak, ou de protection de la population civile. Il n'y a plus de guerre officiellement. Vous savez comment qu'on dit plus bombardement, on dit frappe, enfin j'en passe, c'est les meilleurs. Alors, en matière d'urbanisme et d'aménagement, c'est la même chose. On utilise un langage qui non seulement masque la réalité, mais en plus la fait apparaître pour formidablement bénéfique, sympathique, hein, et positif pour la population. C'est un langage, mais je ne sais pas si je l'ai amené là, c'est un langage absolument, alors stéréotypé, je ne sais pas si j'ai là, j'avais fait un petit lexique techno-métropolitain, donc pour vanter les charmes cachés ou pas cachés, je ne sais pas si je l'ai là, je devrais l'avoir, mais je l'ai peut-être oublié. Les charmes cachés, ou plutôt les charmes très, très évidents de la technopolisation, mais je ne sais pas si je l'ai là. Voilà. Alors, il faut dire que le vocabulaire de ces gens, que ce soit les élus locaux, les chargés de la communication, vous avez dit... Alors, par exemple, le mot communication, quand vous entendez prononcer par un journaliste, un homme politique, un expert, un élu local, donc, le mot communication, faut traduire immédiatement par propagande, publicité, et nous, on dit entre nous, enfumage. Clair. Pas de communication. D'ailleurs, le mot communication est devenu un mot intransitif. On communique rien du tout. C'est le fait de communiquer pour montrer qu'on est démocrate. Alors, quand on dit communication, il y a des cellules de communication. Ah ben oui, je parlais d'euphémisation. Par exemple, on a de plus en plus, mais là je ne veux pas en parler aujourd'hui, sauf si vous me posez des questions sur ce thème, parce que je risque d'être intarissable, c'est sur l'urbanisme, l'architecture sécuritaire. Ça, c'est formidable. Officiellement, alors aux États-Unis, on appelle ça, mais je vais revenir sur... Aux États-Unis, on appelle ça, c'est très clair, aux États-Unis, ils appellent ça « defensible space », l'espace défensif. L'espace doit devenir défensif vis-à-vis de tous les gens qui peuvent troubler l'ordre public. En France, on ne dit pas ça. L'espace défensif, ça fait quand même un peu agressif. Ça peut inquiéter le citoyen, comme on dit. Je reviendrai sur le mot citoyen, qui a beaucoup de succès. En France, on appelle ça architecture de prévention situationnelle. C'est bien. Devise officielle. C'est pas moi qui dis ça, c'est eux. Aménager les lieux pour prévenir le crime. Ça consiste en deux choses. Configurer les bâtiments et les espaces de telle manière qu'ils soient dissuasifs vis-à-vis des éventuels fauteurs de troubles, ceux que Sarkozy appelait les racailleux, racailles, ou chevènement les sauvageons. Deuxièmement, faire en sorte que cet espace, si jamais les fauteurs de troubles passent à l'acte, faciliter l'espace, doit faciliter l'intervention des forces de l'ordre, c'est-à-dire faciliter la répression. Je peux vous... Alors je crois que vous avez eu peut-être la visite de Mathieu Rigouste, non? Non? Ici, oui?
Oui, c'était dans un autre cas.
Ah, dans un autre cas. Bon, il est un de mes collègues, un jeune collègue sociologue, qui étudie de très près comment on est en train de mettre en place des dispositifs à la fois institutionnels, législatifs, technologiques, physiques, de maintien de l'ordre permanent, de contrôle social total de la population, par le biais, entre autres, de l'architecture et de l'urbanisme, et d'autres éléments aussi. Ça, je peux vous en parler si on me pose des questions. Alors, pour en venir, la sécurité, je vous parlais de nos langues. Aujourd'hui, il y a encore jusqu'à 4-5 ans, dans les municipalités, enfin des villes importantes, des adjoints à la sécurité. Or, sécurité, ça fait sécuritaire. Comme il y a une opposition, il en reste un peu à l'extrême gauche, l'extrême gauche, hein, tout compris, hein, pas le PC, parce que le PC est sécuritaire aussi dans les municipalités où il est, mais à gauche du PC, bon, il n'y a pas grand monde, enfin bon, le sécuritarisme, c'est mal vu. On a changé le vocabulaire. Dans ces villes, il n'y a plus d'adjoint à la sécurité. La novlangue est intervenue pour euphémiser cela, et on appelle ça des adjoints à la tranquillité publique. C'est le terme officiel. Et personne ne rit quand on dit ça. Sauf les mauvais esprits, évidemment. Bon, alors, pour venir à le vocabulaire, mais je ne veux pas vous assommer avec ce vocabulaire. Le vocabulaire des élus locaux, des urbanistes, des architectes, des journalistes, des experts, des sociologues, des anthropologues urbains, des gens de Sciences Po qui conseillent tous ces gens-là, est extrêmement limité. Je me suis amusé à le recenser. On a au maximum une cinquantaine de substantifs, 30 verbes et quarantaine de qualificatifs, d'épithètes. C'est un vocabulaire limité, mais il faut dire que leur pensée est extrêmement limitée, elle aussi. C'est un vocabulaire qui est à la mesure de leur pensée. C'est une pensée de technocrate et de gestionnaire de la ville. Ils ne sont pas là pour penser, ils sont là pour inciter les gens à accepter les décisions qui sont prises. Donc, et entre eux, c'est pareil. Hein, moi Alors, évidemment, il y a les chercheurs, mais mes collègues chercheurs, puisque j'en fais partie quand même de la corporation, leur vocabulaire est guère plus riche. Mais entre eux, les chercheurs mettent des vocabulaires plus chiadés. Parce qu'il faut quand même montrer, quand même, on est bac plus 5 ou 6, il faut quand même montrer qu'on a un vocabulaire plus attendu. Mais en général, c'est guère plus. Ça revient toujours au même. Alors, je vous donne le vocabulaire qui revient, par exemple, dans tous les discours sur la technopole ou la métropole. Je vous en donne un exemple. Par ordre alphabétique. Hein. Alors, à l'alter A, on trouve acteurs. Il y a des acteurs dans la ville. Hein, tout le monde est acteur. Le citoyen lambda... Hein, mais Bouygues aussi est acteur. Attention, mais en général, c'est les acteurs dont on parle, c'est les bons. Hein, les acteurs, c'est des élus locaux, des capitalistes, des promoteurs. Mais tout le monde est acteur. Tout le monde est citoyen, comme chacun sait. Bon, adaptation, il faut s'adapter. Atout. Une ville doit avoir des atouts dans la compétition. Le mot compétition revient sans arrêt. Concurrence et compétition. Vous avez des avancées. Il y a toujours des avancées, le progrès. Avancées techniques, avancées culturelles. Vous avez avenir. Le mot avenir revient souvent. Parce qu'on est toujours tourné vers l'avenir, vous avez remarqué dans les discours. Il y a un autre mot qui est moins utilisé, c'est le futur. Toujours le futur. Vous verrez dans les discours, il y a toujours l'avenir ou le futur. On n'est pas réac, il faut que la ville bouge. J'ai vu encore ça ce matin. Poitiers bouge, et la population doit bouger. Autrement dit, s'adapter. Hein, vous avez compris. Bon, tout ce qui bouge n'est pas rouge, comme dit le proverbe. Ah, il est plutôt rose, pour ne pas dire d'une autre couleur. Bon, ensuite, vous avez... Alors, je vais pas vous fatiguer, hein, j'en ai comme ça... mettons là, on va se borner aux trois lettres, hein, à trois lettres, le C et D. Alors C, c'est épouvantable. Carrefour. La ville doit être un carrefour. Hein, vous avez compris, hein, avec les flux, les réseaux, machin. On est toujours au centre de quelque chose. À Dijon, qui est au centre de nulle part, ils ont trouvé le moyen. C'est un carrefour entre Mulhouse, Marseille et Paris. Vous voyez un peu. Complètement mégalo, les maires. Ah, faut dire aussi, hein. Les mégalopoles sont généralement dirigés par des maires qui sont un peu mégalos. J'ai très bien connu Georges Frêche, qui est mort, c'est pas une perte, mais celui qui remplace c'est pareil. Mais vous verriez Martine Aubry ou à Lille ou le maire de Grenoble, l'ingénieur nucléaire Michel PS, bien entendu, Michel Destot, ils sont tout aussi mégalos. Alors c'est un carrefour. Catalyseur, ça revient très souvent, langage technocrate, il faut catalyser les énergies. Hein. Catalyseur, toujours en C. Alors, un américanisme qui montre qu'on est moderne, qu'on a fait les écoles de commerce. américanisé, ou même qu'on était aux États-Unis faire des études. Challenge. On ne dit pas défi. Défi, ça fait franchouillard. Il faut dire challenge. Ça veut dire que, bon, on en veut. Concurrence, toujours. Circulation, hein, la mobilité. Ah, ça, ça revient souvent. La mobilité, c'est sacré. La circulation, tout doit circuler. La mobilité, par exemple, il y a une fondation en France qui s'appelle la Ville en Mouvement. Fondation pour la Ville en Mouvement. Devinez, avec des chercheurs, complètement vendus. Certains appartenaient au Parti communiste. Maintenant, ils sont là. Vous allez voir. Alors, attendez, la fondation de la Ville en Mouvement, devinez qui finance cette fondation. Des gens qui ont intérêt à la mobilité. Hein? Plus fort? Donc, qui est-ce qui a intérêt à ce que les gens se déplacent? Non. Vous êtes encore dans le service public. C'est, oh, il va bientôt être privatisé. Enfin bon. Non! Les vrais, ceux qui ont besoin. Peugeot. Et Michelin. Les deux et les bagnoles. Fondation pour la ville en mouvement. Formidable. Et thème principal, la mobilité, évidemment. Si on vend des bagnoles, hein, on a intérêt à ce que les gens se déplacent. Bon. Ensuite. Circuit, ça revient souvent. Ben là, on est encore dans le truc. Dans les réseaux, les flux. Ça, ils adorent ça, les réseaux, les flux. Alors, je passe plus rapidement. Communication, je ne reviens pas sur ce terme. Compétition, je ne reviens pas. Compétitivité, je ne reviens pas. Concurrence, ah, complexité. Ça, on aime beaucoup ce terme. Quand vous dites qu'une question est complexe, ça veut dire, vous êtes trop con pour savoir, il y a seulement les spécialistes qui peuvent démêler, désintriquer, déconstruire, parce que c'est complexe. Hein. Il y a des choses qui sont très simples. Hein. Quand on s'amuse à piétonniser une rue pour faire augmenter le chiffre d'affaires des commerçants et ceux des promoteurs de chaque côté, c'est pas complexe. Mais si vous dites ça, c'est ah non, c'est simpliste. C'est beaucoup plus complexe. Quand on vous dit c'est complexe, ça veut dire seuls les experts et les spécialistes peuvent comprendre la dynamique et la logique. Complexité. Alors vous avez toujours dans le C, concurrent, je l'ai dit, coopération, à vous coopérer. Tout le monde doit coopérer, hein, c'est le côté unanimiste, tous unis. Vous avez des termes que vous ne connaissez pas, c'est couveuse et crèche. C'est bien ce que viennent foutre les crèches et les couveuses dans ce discours technocratique. Ben, vous devez savoir que ces pauvres entreprises, les start-up, celles qui commencent à démarrer, il faut les protéger. Donc elles doivent être mises dans des couveuses. Une couveuse, c'est une zone industrielle destinée à, ben, le terrain est gratuit, ils sont exemptés d'impôts, pour favoriser l'éclosion de l'entreprise. Je n'invente rien. On appelle ça des crèches d'entreprise ou des couveuses d'entreprise. Je vous signale que dans la Noblangue, on ne dit plus zone industrielle. Parce que ça fait vraiment vieille industrie dure. Il faut quand même écologiser ça. Officiellement, ça ne s'appelle plus. Vous ne trouverez plus de zone industrielle. Vous trouverez un nouveau mot, ça s'appelle parc d'activité. Là, c'est bien. C'est verdoyant, il y a de la pelouse et des jets d'eau. Quand même, les ingénieurs, la matière grise, quand même, les qualifiés, les cafions, ils préfèrent aller dans une parc d'activité. Où travaillez-vous? Dans une parc d'activité. Si je travaille dans une zone industrielle, ça fait prolo, hein, avec les manutentions et tout le truc. Ah bah. Bon. Je continue, je termine sur le D, donc, je ne vais pas vous, je vous épargne le reste, hein, j'en ai jusqu'à la lettre V. Décideurs. Alors là, les décideurs. C'est catégorie. Alors, il y a les acteurs, on ne sait pas trop qui c'est tout le monde, enfin, en général, on sait qui c'est. Les acteurs, c'est en général les... Ben, ceux qui décident, c'est vrai, hein. À savoir, là, il y a une revue qui n'est pas une revue de gauche, qui s'appelle Expansion, qui publie régulièrement un numéro spécial, un dossier spécial dans un numéro, dont le titre est « Qui décide à ?» Qui décide. Alors, moi, j'avais été invité il y a quelques mois à Grenoble, là vraiment dans le temple de la technocratie aménageuse, par une association complètement noyautée par le PS depuis très longtemps, qui a formé des dizaines d'élus locaux depuis les années 60. On écoute. Une vieille association française qui forme des élus locaux de toutes sortes, qui s'appelle l'Association pour le développement de l'économie locale et solidaire. Vous voyez déjà le titre. Et il m'avait invité parce que le fondateur, qui est pas mort, il a 82 ans, il avait envie que le débat de clôture soit un peu animé. Donc ils ont envie de faire venir un gauchiste de service qui a foutu un peu la merde, c'était lui qui dit ça. Et j'avais à côté de moi la grande prêtresse de la démocratie participative, une collègue sociologue de Ségolène Royal, conseillère de Ségolène Royal. Bon, inutile de dire, on se connaissait, on se déteste, on sait que politiquement, bon. Mais lui, il a joué le jeu. J'avais devant moi une flopée de maires, de technocrates, de chercheurs, de présidents d'associations, tout bordel, machin, tout ça vote PS ou écolo au premier tour, même il y en a qui se donnent des frissons, ils votent de Besançon au premier tour et ils votent PS au deuxième tour. Bon, mais oui, mais c'est comme ça. Il faut le savoir, hein, ben, pour peu qu'on connaisse la réalité locale dans la Poitiers, vous allez gratter, vous allez voir, c'est le même coup. Et alors, le matin était sortie une revue qui s'appelle Expansion. Et dans ce numéro, c'était qui décide, j'étais à Grenoble, donc qui est vraiment la mecque de ce genre de politique urbaine, et le numéro de l'Expansion qui était sorti le matin, c'était qui décide à Grenoble. Or, le débat de clôture, c'était sur la démocratie participative, qui pour moi est une baudruche idéologique qu'il faut dégonfler à tout prix. Un truc totalement bidon. Bon, peu importe, je ne vais pas rentrer là-dessus. Et justement, je leur dis pour illustrer. Vous voulez savoir qui décide? Vous dites les citoyens, les habitants, les résidents. Je ne crois pas que ce soit exact dans la mesure où même la presse du Capital, dont j'ai un exemplaire ici, j'avais à la main l'Expansion qui était sortie le matin, dans la librairie grenobloise, il y avait un gros titre qui décide à Grenoble, et on apprend qu'à Grenoble, il y a 42 personnes qui décident, un tiers d'élus locaux, un tiers de patrons, et un tiers de pontes et de mandarins de l'Université de la Recherche. Alors, vous pouvez, j'étais devant tous ces gens, on peut en déduire qu'ils ne décident pas à Grenoble. Autrement dit, l'immense majorité de la population. Bon, dans la salle, il y en a qui sont sortis en signe de protestation, d'autres qui ont vachement rigolé, parce qu'il y a quand même... Ils sont cyniques, hein, mais enfin, ils savent très bien, ils sont les bien placés pour savoir, etc. Enfin, c'est pour vous dire, un décideur, c'est quelqu'un qui décide et qui prend des décisions, qui, implantation d'une université, création d'un parc d'activités, donc, décision de requalifier le centre-ville, de donner la priorité à la requalification de telle place où on mettra des arbres, on supprimera les bancs pour pas qu'il y ait des clochards, en plus on implantera des caméras de vidéosurveillance, par exemple certaines villes, là où il y a des départs de manifs, elles sont toutes maintenant, mais il paraît qu'à Poitiers c'est pas encore le cas, à Grenoble, à Toulouse, là où il y a des départs de manifs, les places, elles sont toutes avec au minimum 4 ou 5, non, au minimum, hein, 5 ou 6 caméras de vidéosurveillance pour expliquer les manifestants. Alors voilà les décideurs, donc je vais terminer avec le mot D. Défi, je l'ai dit, le défi, il y a toujours un défi qu'il faut relever, c'est le challenge, hein, dont je parlais tout à l'heure. Il y en a qui parlent français quand même, hein, des fois, ils disent défi au lieu de challenge. Le challenge, ça fait mieux. Il y a alors, tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux mots qui venaient souvent, c'est le futur, on se projette, hein, et l'avenir. Mais alors, ceux qui sont les plus lettrés et les plus prétentieux, ils utilisent ni le mot futur, ni le mot avenir, mais un autre, plus sophistiqué. Ça, c'est bac plus combien, mais littéraire. C'est devenir. Le devenir de la ville. Ça sonne bien. Dans une assemblée, c'est mieux de dire le devenir de Poitiers que de dire le futur de Poitiers ou l'avenir de Poitiers. Là, c'est plat. Si vous dites devenir de Poitiers, on dit merde, il a des lettres, le mec, hein, il pense loin, c'est philosophique. C'est la même chose, c'est la même ratatouille qui est en dessous. Mais il y a un langage différent. Vous avez les deux derniers, c'est diffusion. Faut que ça diffuse. Ah oui, il y a deux mots qui reviennent. Il y a, celui-là, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, dans A, il y a attractivité. Il faut accroître l'attractivité de la ville. Autrement dit, attirer ce dont je parlais. Hein. Les promoteurs, les ingénieurs, les cadres, les chercheurs, les enseignants, tout ce qu'on voudra. Et le deuxième, c'est le rayonnement de la ville. Elle attire et puis elle rayonne. Elle rayonne, certains, ils rayonnent à l'échelle mondiale. Il y en a qui complètement, le maire PS de Lyon, Gérard Collomb, Lyon rayonne à l'échelle mondiale. Grâce à Marseille, capitale de la culture, Jean-Claude Gaudin, UMP, pour une fois, c'est pas un PS, dit que Marseille va rayonner à l'échelle planétaire. Vous verriez ce qui se prépare à Marseille, c'est nul. Si ça rayonne PACA, la région PACA, là, ça ira pas beaucoup de là. Hein. Je crois que même à Paris, on va dire, Marseille, pas terrible. Bon, peu importe, ça rayonne. Alors là, la diffusion, c'est très important. Et le dernier mot qui revient très souvent, c'est dynamisme. Vous voyez. Dynamisme, ça veut dire c'est fort, ça bouge, c'est vigoureux, voilà. Alors, bon, j'ai été peut-être un peu long sur certains points. Pour ne pas monopoliser la parole de manière exclusive, j'aimerais bien que certains d'entre vous soit me posent des conseils, soit des questions pour préciser certaines choses, soit émettent des critiques et des objections. Alors, bien entendu, une question qui ne manquera pas de venir, et bien aussi bien de gens, des gens que je critique, que de mes amis et compagnons, camarades, anarcho-autonomes, comme dirait Michel Aignan-Marie, à savoir, c'est une même question, ouais, on peut être peut-être d'accord avec ces critiques, mais attention, arrive la question épouvantable, qu'est-ce que vous proposez? Alors, on le sort à chaque coup. Bien entendu, je n'ai pas de programme clé en main, puis on sait ce que ça donne, mais on peut aussi répondre à cette question de manière... Alors, toutes les solutions qu'il propose, à mon sens, font partie, moi, de la reproduction des rapports de production capitaliste. Nous, on a la démocratie participative, la nouvelle gouvernance, la ville durable, tout ça, c'est de la connerie, mais on peut le démontrer, moi, je m'attache avec d'autres à le démontrer. Mais, en fait, effectivement, on peut dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on... Il faut quand même bien dire une chose, c'est depuis les années 70... dans les différents pays, avec des décalages selon les pays, etc., il faut bien dire que la bourgeoisie, la classe dirigeante, ah oui, le mot que j'avais oublié tout à l'heure en disant les traits caractéristiques, j'avais oublié le principal, on nous le ressort sans arrêt, c'est que la bourgeoisie, le capitalisme s'est mondialisé. Mais ce terme n'est pas, à mon avis, valable, pour deux raisons. La première, mondialisation. C'est que la mondialisation du capitalisme, elle a commencé, elle ne date pas d'hier. L'expansion mondiale et planétaire du capitalisme a commencé à la fin du XVe siècle. Et elle s'est accélérée au cours du XVIe avec les grandes découvertes, avec l'expansion coloniale, la conquête d'un certain nombre de territoires, aussi bien en Afrique, en Inde et surtout en Amérique latine, la mondialisation. Pour un certain nombre d'entre nous, le terme exact pour qualifier le type d'expansion du capitalisme aujourd'hui, qui, alors on peut dire que ça se parachève, maintenant on peut dire qu'il n'y a plus un seul endroit de la planète qu'il ne soit pas sous l'emprise du capitalisme, même quand ils sont délaissés. Vous savez, le fait qu'il y ait des régions dynamiques, comme ils disent, et des régions qui stagnent, des pays dynamiques, des pays qui stagnent, des continents entiers même, ou des grandes parties, c'est le résultat de la dynamique du développement capitaliste. Les marxistes, je dirais, même si quelquefois on n'aime pas trop citer, pas Marx, mais d'autres qui ont étudié cela, notamment Trotsky et Rosa Luxembourg, ils appelaient ça le développement inégal et combiné, ce qui caractérise le capitalisme. Développement inégal et combiné, ça veut dire bien dire une chose. Ça veut dire de même qu'il y a certains qui s'enrichissent, mais l'enrichissement des uns est lié à l'appauvrissement des autres. S'il y a des villes qui sont dynamiques, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. S'il y a des pays qui sont dynamiques, c'est parce qu'il y en a d'autres qui non seulement ne sont pas dynamiques, mais ceux qui sont exploités, dominés, pressurés par les autres, etc. Le développement inégal et combiné, c'est une logique de développement typique du capitalisme qui fait qu'effectivement, on a encore aujourd'hui, même si on dit que le capitalisme est partout, il y a des pays où, à un moment donné, qui n'intéressent pas les capitalistes, ou des régions, ou des villes. Si vous allez dans le nord de la France, je peux vous dire, moi j'habite partiellement en Picardie, les anciennes villes industrielles, l'industrie du verre, des petites industries, vous allez dans le sud-ouest aussi, vous avez des villes sinistrées, là où on a fermé des usines, délocalisé, hein, où le capital se déplace, ce qu'on appelle le mouvement du capital. Donc c'est parfaitement logique que on peut dire que c'est aussi l'effet du capitalisme, s'il y a des villes qui stagnent, ou s'il y a des régions qui se meurent, hein, où il y a des villes où il y a des populations dont 60% des gens de moins de 25 ans, entre 18 et 25, sont au chômage. Bon, et après on s'étonne qu'ils ne votent pas ou qu'ils votent Front National quand ils ne sont pas contents. Bon, et c'est comme ça. Le capitalisme, c'est ça. C'est le développement inégal et combiné partout. Alors, ce que je veux dire là, c'est que le mot, pour en venir à la mondialisation, le mot n'est pas exact parce que ça a commencé donc il y a longtemps, mais il y a quelque chose qui est nouveau depuis les années 70. C'est là le trait que j'avais oublié, caractéristique que j'avais oublié tout à l'heure, c'est que on a un phénomène que certains appellent, et je suis d'accord avec eux, soit des économistes, soit des sociologues, bien entendu d'inspiration marxiste ou marxienne, ils appellent ça la transnationalisation du capital. Et ça veut dire une chose, c'est que la dimension nationale et étatiste du capital n'est plus la caractéristique première. Le capital, contrairement à ce qu'on croyait, le capital nationaliste, patriote, faux. Le capital n'a pas de patrie aujourd'hui, La plupart des entreprises dites multinationales sont en fait transnationales. Elles peuvent être avec des capitaux de tous les pays, pas d'une nation particulière, dominées à un moment donné par un Américain, par un staff à dominante américaine. En tout moment, ça pourrait être coréen. Regardez ce qui se passe avec Catherine Lagarde. Comment s'appelle Lagarde ? Christine Lagarde. Bon, maintenant il y a un Mexicain qui se présente, il y a un Chinois, membre du Parti communiste chinois qui se présente aussi. Bon, communiste entre guillemets évidemment. Tout ça fait que le capitalisme, bon, l'État, en tant que force, j'allais dire dirigeante ou dominante, toujours au service du capital, mais le rôle de l'État interventionniste, planificateur, acteur important de la dynamique capitaliste, c'est terminé maintenant. Maintenant, il y a une dynamique qui est de plus en plus transnationale, donc c'est pour ça qu'on ne peut plus dire multinationale, on ne peut pas dire mondialisation, parce que c'est transnationale, ça veut dire que vraiment, c'est un capitalisme devenu, comme dirait Kouchner à propos de sa boutique, enfin, la boutique qu'il a fait connaître, sans frontières. Sans frontières, non, c'est bien des frontières géographiques, mais qu'il pénètre absolument partout. Il pénètre dans la culture, vous le savez comme moi, dans l'art, il pénètre dans tout, il pénètre maintenant dans les hôpitaux, il y a la privatisation, ce qu'on appelle la privatisation généralisée, la SNCF est semi-privatisée, la Poste l'est très largement, encore plus que la SNCF, et ça continue. C'est-à-dire qu'on a effectivement ce phénomène de diffusion du capitalisme. Et alors, pour en venir à ce que je voulais dire, à propos des solutions alternatives, c'est que la bourgeoisie dans cette affaire, donc je le disais, alors, si on utilise un terme américain, globalisation, puisque eux, ils utilisent ça, mais on l'utilise en français aussi, ils ont transnationalisation, je le disais, technologisation, flexibilisation, etc. Et la bourgeoisie est à l'offensive depuis les années 70. Parce qu'en face, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on appelait le mouvement ouvrier au 19e siècle, au début du 20e, je ne vais pas vous faire le truc, vous le savez aussi bien que moi, il s'est décomposé, il s'est effondré, la classe ouvrière s'est dispersée. Avant, elle avait, avec toutes les critiques qu'on peut faire, elle avait des programmes, elle avait des idéaux, elle avait des valeurs, elle avait des leaders, elle avait des théoriciens. Maintenant, c'est largement terminé. Il n'y a pas de contre-force, on peut dire, actuellement, solide, enfin, qui oblige le capitalisme à reculer, enfin, à freiner. Alors, il y a eu un moment, un espoir, partagé par beaucoup. Dans les années 95, le coup d'envoi a été donné à Seattle. Vous vous en souvenez peut-être, pour les plus vieux, je dirais, les plus jeunes, avec le mouvement altermondialiste, dont on s'est aperçu après qu'il était très largement composé de couches intellectuelles et que leur solution était en fait un autre monde possible, pour reprendre un slogan connu. Quand on grattait un peu, quand on les analysait de près, ce qu'ils voulaient, c'était le retour à l'État-providence, hein, aux services sociaux importants, à la planification, etc. Ils voulaient en fait moraliser le capitalisme, diminuer sa domination, le civiliser, le reciviliser en quelque sorte, pour qu'il cesse d'être sauvage. Et on s'est aperçu, la preuve, ça a été repris par certains théoriciens bourgeois, économistes, on s'est aperçu que l'autre monde possible était en fait un monde autrement capitaliste, ou bien si vous préférez, un monde autre que capitaliste, mais pas un monde, pardon, autre que capitaliste. Ce qu'il voulait, c'est un autre monde capitaliste, plus civilisé, plus doux dans la domination, mais pas du tout une alternative, ce qui aurait supposé, somme toute, que les forces populaires, ou du moins que les couches populaires, redeviennent une force collective, au niveau international en plus, susceptible de faire contrepoids à la domination capitaliste. Et ça ne s'est pas passé. Certes, en Amérique latine, puisque c'est le seul pays où ça a bougé un peu, on a eu de forts mouvements populaires qui ont amené au pouvoir des partis plus à gauche, le plus caractéristique étant le Brésil, qui est quand même un des plus importants, un des géants, comme on dit, du XXe siècle. Mais on s'aperçoit en fait, vous avez vu la politique de Lula, qui était très appréciée à Washington. Somme toute, on a trouvé que c'était un réformiste modéré, et il n'a jamais eu de problème. Au contraire, on n'a jamais autant investi au Brésil qu'à l'époque où Lula était président. Ça continue avec ça. Celle qui a remplacé Lula à la tête, comme vous le savez, c'est une femme, présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui a pourtant un passé. Lula était un ancien militant syndicaliste qui a été mis en tôle au moment de la, où les colonels dominaient au Brésil. C'était vraiment un militant de gauche. Bon, ben, il est comme beaucoup de militants de gauche quand ils arrivent à des positions de responsabilité, non seulement syndicale, mais cette fois la gouvernementale. Il dérive vers la droite. La nouvelle présidente, son passé est encore plus glorieux, si je peux dire. Pour ceux qui ne le savent pas, mais certains d'entre vous le savent, c'était une femme qui était dans la guérilla urbaine, les armes à la main. Et elle a été torturée. Eh bien, elle est présidente de la République, et ce qu'elle cherche aujourd'hui, c'est à nettoyer les favelas pour attirer les investisseurs et les touristes, en envoyant l'armée. Et je ne sais pas si vous avez vu des clips YouTube sur la répression qui a eu lieu au mois de novembre, mois de décembre, janvier, février, dans les favelas. Là, c'est l'armée carrément qui nettoie, avec un certain nombre de morts. Bien entendu, vous allez me dire, officiellement, il faut nettoyer parce qu'il y a les narcotrafiquants qui dominent les favelas. Mais évidemment, quand les gens n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail, beaucoup, surtout les nouvelles générations, se livrent au trafic de drogue. C'est pour vous dire, bon, alors, on a présenté le Brésil, les altermondialistes, ils allaient tous à Porto Alegre, à la messe, là, les grandes messes altermondialistes, ça n'a pas débouché. Bon, je laisse de côté Chavez, hein, puis quelques autres, hein, à l'Équateur, bon, etc. Mais on ne peut pas dire que tout ça soit de nature. Chavez n'a pas rompu avec les cartels de pétrole. Non, il est fait cracher un peu plus, puis c'est tout. Pour l'instant, on n'a pas au niveau gouvernemental de véritables alternatives. Et la question, c'est qu'effectivement, le mouvement ouvrier, comme on disait jadis, n'est plus ce qu'il était. C'est le moins qu'on puisse en dire. Il y a eu des transformations concernant les conditions de travail, hein, la dispersion, la technologisation, je n'y reviens pas, les nouvelles hiérarchies, la flexibilisation, la déstabilisation de l'emploi. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Mais on en est là. On en est là, et quand on me dit quelle alternative, pour la ville comme pour la société en général, ben, on regarde ce qui se passe. Alors, il se trouve que depuis... je dirais, pour prendre une date symbolique, le 15 mars de cette année, s'est déclenché un mouvement qui avait commencé 2 mois auparavant, mais avec pas beaucoup de monde. Alors, naturellement, vous allez me dire, attendez, j'ai pas parlé de ce qu'ils appellent, les journaleux appellent ça la révolution de jasmin, des conneries, bah, des conneries de ce genre, etc. Enfin bon, ce qu'ils appellent les révolutions arabes. Les révolutions arabes, c'était effectivement le peuple dans la rue, qui a pu venir à bout en se faisant trouer la peau pour un certain nombre, réprimés, blessés, etc., venir à bout de, non même pas de régime, de gouvernement autocratique, corrompu, dictatoriaux et policiers, bon, mais il faut quand même savoir, et vous devez le savoir aussi, que les gens qui se trouvent actuellement au levier de commande, aussi bien en Égypte qu'en Tunisie, sont tous des gens qui appartiennent à la bourgeoisie. Pour la plupart, ont fait leurs études dans les écoles de commerce ou de gestion française, américaine ou anglaise, qui se font partie de la classe dirigeante. On n'a pas changé de régime, même pas. On a changé de gouvernement, on n'a même pas changé de régime. Alors ne parlons pas de changer de société. Pour l'instant, bon, on peut dire, on peut être optimiste, mais pour l'instant, on en est là. À l'horizon, pour la preuve, le FMI s'est empressé, dans sa réunion à Deauville récemment, empressé de décréter qu'on allait donner des milliards pour permettre d'euros, en l'occurrence de dollars si vous préférez, c'était des euros, on était à Deauville, pour stabiliser la situation aussi bien... Alors, quand il dit stabiliser la situation, ça veut dire situation économique, mais en fait une situation politique, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte. Alors, pour revenir au 15, bon, actuellement, si on regarde la carte mondiale, et si on regarde d'abord la carte européenne, pour faire de l'eurocentrisme, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est apparu à Madrid, le 15 mai. Bon, vous avez entendu parler de ce mouvement qui s'appelle la démocratie maintenant. Le mouvement s'appelle Prendre les places, qui s'est traduit, bon, au départ, ils ont fait des manifs, avant février-mars un peu, qui ont grossi. Et puis, le 15 mai, il y a eu une manif énorme qui s'est placée. Et une manif avec des gens énormes, quand je dis énormes, ça voulait dire 35 à 40 000 personnes qui a occupé le centre de la place de Madrid. Bon, j'y étais à ce moment-là, c'est une coïncidence. Bon, j'ai une bonne fréquentation quand même dans ce milieu, mais je me trouvais là par hasard pour faire des cours. Mais les organisateurs, entre guillemets, les militants, enfin les gens qui étaient là, ils étaient les premiers étonnés de ce qui s'est passé. Ils ne savaient pas qu'il y aurait le 15 mars autant de monde en plein centre-ville, parce que même ceux qui connaissent pas Madrid ont entendu parler de ce lieu, la Puerta del Sol, c'est la le cœur de Madrid. Alors là, c'est vraiment le cœur de Madrid le plus commerçant, le plus... Bon, c'est là où il y a le plus de gens, le plus de fric et tout ce qu'on voudra. Occupation de la place, qui a duré, avec immédiatement auto-organisation des gens, service d'hygiène, ravitaillement, interdiction de l'alcool, temps pour camper, musique, concert. Et je peux vous dire que sur cette place, est occupée toute la nuit, hein, bon, c'est, vous allez me dire, c'est les Espagnols qui s'habitent à se coucher tard, mais enfin quand même. Et ça sous les fenêtres du palais régional tenu par l'aile droite de la droite, c'est une femme qui dirige de la province de Madrid. La police n'a pas osé intervenir parce que c'était en pleine période électorale. Il faut dire que le mot d'ordre, c'était droite-gauche, marionnette des banquiers internationaux. Politiciens pourris. La démocratie n'existe pas. Elle est dans la rue, etc. D'un seul coup, on a vu, et même les Espagnols que je connais bien, qui sont pourtant politisés depuis longtemps, ils n'en revenaient pas de voir la rapidité avec laquelle il y avait des milliers de gens, majoritairement des jeunes, pas seulement, il y avait un gros paquet de retraités, évidemment les retraites sont amputées avec la politique d'austérité, il y avait un certain nombre, beaucoup, très nombreux, de parents avec leurs enfants, complètement non-violents, cette affaire, avec des mots d'ordre, des débats, de tout ce qu'on voudra. Bon, en une semaine, la place était toujours occupée, 52 rues, je dis bien 52 villes espagnoles, voyaient toute leur place centrale occupée. Et ce n'était pas du copier-coller comme en France, hein, où on est deux pelés un tendu. Bon, Poitiers, j'ai vu tout à l'heure, c'était pas la foule, hein, je crois. Mais c'est pareil à la Bastille, à Paris, hein, faut pas se leurrer, ils étaient 2000, 2500 maximum. En plus, ceux qui ont donné le coup d'envoi, c'est des Espagnols de Paris qui ont foutu la merde devant l'ambassade d'Espagne. Et après, ils ont été à la Bastille. Bon, mais peu importe. Je veux dire que là, on s'est retrouvé en Espagne d'un seul coup, avec une occupation de rue, des mots d'ordre, des slogans, des types d'organisation, et c'était pas les anarches qui étaient dominants, là. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout dans aucune organisation. Il y avait des anarches, d'accord, mais c'est pas, comme, contrairement à ce que racontait le gouvernement, aussi bien de gauche que de droite, c'était pas manipulé par des groupuscules gauchistes, c'est faux. Les groupuscules gauchistes, comme on dit, ils étaient complètement débordés, les premiers étonnés de cette affaire. Et, ce qui se passe, bon, il y a aussi ce qui se passe aujourd'hui à Athènes, à Thessalonique, à Patras, les grandes villes grecques, où, à nouveau, les gens descendent dans la rue pour refuser des plans d'austérité. Alors, contrairement à ce qui s'est passé il y a deux ans, c'était effectivement les noyaux du ranard qui ont décidé toute la merde au centre en cassant le maximum d'agences bancaires et de magasins. Résultat, ils sont foutus une partie, je dis bien une partie seulement de la population, contre eux, et d'autre part, ils ont justifié la répression. Là, maintenant, ça redescend dans la rue. Très nombreux à Athènes, là, il y a quelques jours, il y a cinq jours, ils étaient 25 000 sur la place principale d'Athènes. Le vieux, pour ceux qui connaissent, je parle pour les anciens, ce grand compositeur grec qui s'appelle Mikis Theodorakis, 86 ans, il était sur la place et il a fait chanter des chants de la révolution grecque des années 48-52. D'ailleurs les Grecs, qui sont plus musiciens que les Français, savaient chanter, connaissaient les paroles. C'était, bon, on peut dire, bon, c'est peut-être un feu de paille. C'est peut-être sans débouché. Mais il commence à y avoir partout, et c'est valable aussi, bon, alors c'est beaucoup moins important, il y a eu des jeunes qui sont révoltés en Angleterre, qui ont foutu la merde au centre de Londres, mais il faut dire que c'était majoritairement des étudiants qui protestaient contre l'augmentation des droits d'inscription. Il y a eu la même chose en Italie aussi, peu après, hein, avec affrontements violents, etc. Mais on se trouve dans une période, je dirais, de mon point de vue, enfin, point de vue, là, je ne suis pas tout seul, mais d'un certain nombre de gens, qui est plus prometteuse aujourd'hui, en 2011, qu'elle était en 2001. Il y a un réveil, alors pas même, il y a un dégoût massif de la population vis-à-vis de la politique politicienne, qui peut évidemment conduire au pire, chercher un homme providentiel, voter Marine Le Pen, etc., ça peut jouer ça aussi. Mais d'autre part, il y a quand même des mouvements actuellement, la démocratie représentative est totalement discréditée. Alors l'histoire de chez nous, on a le côté franchouillard, l'histoire des SK, mais c'est une chose parmi d'autres. La corruption des hommes politiques, leurs privilèges, leur inutilité, leur opportunisme, etc., c'est quelque chose qui est devenu évident, et bien entendu, dans ces coups-là, c'est ou bien ça produit une révolte qui se politise dans l'action, et par l'action, ou bien ça peut révolter, ça peut conduire à du retrait individualiste, du sauf qui peut, voir effectivement, comme ça s'était passé, mais l'histoire ne se répète pas, durant la République de Weimar, lorsque la gauche au pouvoir, une fois de plus, avait écrasé un mouvement révolutionnaire, et ça avait donné ce que vous savez, ce que ça a donné, l'arrivée au pouvoir, légalement d'ailleurs, du national-socialisme. Aujourd'hui, on en est là, mais moi, pour ma part, je pense que les... Et prendre les... Alors, je vous donne les dernières nouvelles. Par exemple, en Espagne, ils ont quitté la place de la Puerta del Sol. Vous pouvez rester à l'Eternam. Pour y faire quoi? Pour progresser. Et ils ont délocalisé. Ils commencent à délocaliser dans tout... Vous savez, au maximum du mouvement, il y a 3 semaines, c'était 52 villes espagnoles avec le même phénomène. C'est quand même énorme. Toutes les plus grandes villes. Maintenant, ils se délocalisent sur les places des quartiers populaires, au lieu de prendre le quartier central de la ville. Et pour faire les jonctions avec les comités de quartier qui existent encore, c'est pas donné, hein, ça. Avec les comités de quartier qui existent, qui luttent dans le cadre des luttes urbaines. Hein. Il y a les squatteurs, il y a les gens qui luttent contre l'augmentation des loyers, les gens qui luttent contre la pollution et les machins, etc. La transformation de machins de vieux immeubles en bureaux et tout, contre la gentrification, c'est de l'empetit bourgeoisement des quartiers, etc. Bon, on en est là. Et j'ai pas de solution, simplement. Il faut savoir une chose, hein. Comme disait le président Mao, que je m'excuse de citer ici, surtout que lui, là où il y a oppression, il y a révolte, tôt ou tard. Et je pense qu'en ce moment, nous sommes dans une période où la révolte commence à redonner des signes de vie, du moins en Europe. Voilà, j'ai terminé pour le moment. Mais vous pouvez dire, quoi? Putain, le mec, hein? Il nous, mais j'en suis là. Je veux dire que si on regarde les mouvements concrets qui se passent dans les villes en ce moment pour lutter, que ce soit l'augmentation des loyers, que ce soit, donc je répète, les squats. Parce que les problèmes, la pollution et tout ça, ça peut être parfaitement, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter, mais il faut lutter sur l'origine de la pollution. Si on vous dit, on répond, on va faire des espaces verts, c'est ce que répondent les municipalités. Regardez la rue de, je suis passé ce matin donc, cette rue qui mène de la préfecture à la rue Victor Hugo, ça s'appelle la rue quoi? Victor Hugo. Je m'étonnais qu'on ne l'appelle pas avenue, ça va venir, hein. Mais ça, vous avez vu. Nouveau lampadaire, très design rétro pour l'identité de Poitiers, renouer avec le passé, et on plante des arbres. On va planter des arbres. Il y a des grands trous, ils vont arriver. Bon, ben effectivement, je suis pas contre. Ça, c'est plus joli qu'aujourd'hui, c'est un peu sinistre. Bon, mais c'est pas ça le problème, hein. Ça va pas mettre fin ni à la crise du logement, ni à la marginalisation des couches populaires, pour ne parler que l'espace urbain. Bon, alors, je répète, vous avez peut-être des questions, vous êtes insatisfait. Moi, je suis pas satisfait des réponses pour l'instant, mais je ne peux pas les inventer. On a perdu quand même l'habitude de l'avant-gardisme léniniste où les gens avaient des programmes clés en main. Un, qui étaient des programmes, en fait, de reconduction de nouvelles formes de domination. Deux, des programmes, quand ils étaient bons, ils n'étaient jamais appliqués. Alors, dans les deux cas, c'est pas bon. Alors... Vous ne pouvez pas me dire qui ne dit mot consent selon le proverbe. Jean-Pierre Biste a quelque chose à dire? Non.
Oui, il y a deux questions.
Là, deux questions, vas-y, allez-y. Mais on met la pression sur les municipalités. Regardez, alors là je peux prendre l'exemple espagnol. Je vais essayer de faire diffuser le manifeste qui est sorti il y a 3 jours. Centre-ville, par exemple, on met la pression sur les élus locaux pour qu'ils interdisent aux promoteurs d'augmenter les loyers et de vendre des appartements hors de prix. Et qu'ils font des manifs devant toutes les agences. Vous savez, les agences immobilières qu'on voit partout, la Century ou je sais pas quoi, ce que vous avez chez vous, c'est pareil que les multinationales maintenant de plus en plus, c'est-à-dire de s'attaquer directement, c'est local, hein, aux forces qui contribuent à l'augmentation des loyers en centre-ville. Demander, mettre la pression pour construire des logements sociaux, c'est réformiste, hein, vous allez me dire. Des logements sociaux en centre-ville. Mais des logements sociaux, attention, les Espagnols disent, attention, compte tenu du revenu moyen des travailleurs, alors travailleurs ça veut dire ouvriers employés en l'occurrence, pas de logements sociaux haut de gamme. Vous savez qu'en France il y a 14 types de logements sociaux et vous avez des logements sociaux qui s'adressent à quoi? À la petite bourgeoisie intellectuelle, aux couches inférieures, des classes moyennes. Hein, c'est ça ce qu'ils appellent la mixité sociale. On va mettre un peu plus d'infirmières, de profs, etc. là-dedans et puis il y aura moins d'ouvriers. Il y a des logements sociaux qui ne sont pas accessibles ce qu'on construit au nom de la mixité sociale, soit dans les centres-villes, soit maintenant dans ce qu'ils appellent les opérations de rénovation urbaine, c'est-à-dire on détruit des barres et des tours dans les cités, et on met à la place des nouveaux types de logements à l'échelle humaine, avec une architecture plus recherchée, plus personnalisée, et on s'aperçoit que ces logements sont inabordables pour les gens qui en ont le plus besoin. Bon, alors, là, sur ce cas précis, par exemple, de l'élitisation des centres-villes, ça veut dire, s'opposer aux politiques municipales et aux forces qui agissent sur le marché, principalement les promoteurs et les agences immobilières, par des manifestations, des affiches, des tracts, etc. Il y en a certains, évidemment, les plus gauchistes disent on va casser les vitrines des agences immobilières. Hein. Bon, ça, c'est ceux qui sont les plus gauchistes, hein, si on peut dire. C'est un exemple. Espace public, demander que l'installation, réinstaller des bancs sur les places publiques. Parce qu'on supprime soit on supprime les bancs, soit on met des bancs qui sont tellement... ils ont l'air plus d'objets d'art, les bancs. On n'a pas envie de s'asseoir dessus parce qu'ils ne sont pas du tout confortables. Ils sont faits pour dissuader les zonards et autres clochards de se vautrer sur les bancs et d'y dormir dessus. Demander que les espaces publics soient vraiment publics, c'est-à-dire l'autorisation systématique et inconditionnelle d'organiser des fêtes dont l'initiative ne vienne pas des municipalités. Des fêtes, des concerts, peu importe. Des manifestations culturelles, entre guillemets. Et pas seulement des manifestations destinées à consensuelles, unanimistes, comme ils le font habituellement. Parce que là, j'ai vu ce matin l'aménagement devant la mairie, avec un dégradé, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez regardé, qui s'est fait pour mettre des scènes et des activités organisées par la municipalité, voire sponsorisées par les marchands, avec un truc dégradé juste devant la mairie pour mettre des chaises, et que les gens debout, ils verront tous, puisque le niveau baisse progressivement. Bon, alors, l'idée, par exemple, mais il n'y a pas qu'Espagne, hein, ils le disaient avant, ça, à Barcelone, même en Italie, c'est qu'on n'ait pas le besoin de demander une autorisation à la police pour organiser des fêtes ou des manifestations sur les espaces publics, en échange de quoi les gens qui organisent des manifestations garantissent l'ordre. C'est que le service d'ordre ne sert que les forces de l'ordre soient absentes en pensant à la capacité d'autogérer des manifestations. C'est-à-dire que les manifestations, la festive, sont toujours des manifestations où l'idée, c'est qu'elles soient politiques en même temps, avec des revendications qui peuvent avoir rien à voir avec la politique urbaine. Ça peut être sur la répression, ça peut être sur le chômage, ça peut être sur date et état de la sécurité sociale, n'importe quoi. Mais c'est aussi l'idée. C'est-à-dire que c'est en tout jouer la carte de ce qu'on appelait jadis l'autogouvernement populaire ou l'autogestion, mais on n'aime pas, ce mot était dévalorisé. Donc l'auto-activité, si on peut, des gens organisés qui s'organisent eux-mêmes, qui définissent ce qu'ils revendiquent, la manière de le revendiquer, où il le revendique, et voilà. C'est un exemple. Pour répondre, je ne sais pas si...
Il y avait une question.
Oui.
Il y a des villes qui commencent à faire citer, par exemple, pour les villes,
Saint-Ouen. Je ne connais pas la politique... C'est toi, ils plafonnent les loyers, mais les loyers privés, ils plafonnent. Oui, parce que, par exemple, c'est très simple, on interdit une opération immobilière si les loyers sont pas, hein. C'est simple. Hein. Légalement, c'est simple. Le problème, c'est que ces municipalités, en général, sont aux ordres des marchands, parce qu'ils veulent que leur municipalité soit dynamique, qu'elle attire, vous savez, des municipalités. Parce que moi, je ne sais pas, mais par exemple, bon, on est dans le 9-3, comme on dit là-bas, Sainte-Saint-Denis, ils ne veulent pas de... Sainte-Saint-Denis, c'est Sainte-Saint-Denis, d'ailleurs, ou celle d'à côté, je ne sais plus. Sainte-Saint-Denis encore, bon... ce qu'ils veulent, la plupart des élus locaux, c'est la mixité sociale. Se débarrasser, comme ils disent, il faut voir les mots, les cas sociaux, les familles lourdes, traduisez, hein, c'est les plus pauvres, hein, pour mettre du petit bourgeois, classe moyenne. Alors là, ils mettent des HLM, effectivement, ils peuvent plafonner, effectivement. Ils peuvent interdire, ils disent, voilà, un promoteur, mais il faut savoir quel est le plafond. Parce qu'il faut bien dire que si c'est du loyer privé qui est plafonné, il peut n'être accessible qu'à, pas aux ceux qui ont, ils peuvent être accessibles à des couches moyennes en quelque sorte, puisqu'il s'agit aussi pour les partis de récupérer une partie des couches moyennes qui sont en voie de prolétarisation, il faut le savoir. C'est quand je parle de la petite bourgeoisie intellectuelle, celle qui se trouve entre la classe bourgeoise et et classe populaire, vous avez différentes strates, différents niveaux, et vous avez des couches qui sont en voie de prolétarisation, hein, avec du chômage, de l'emploi instable, le fait que les services publics ne sont plus ce qu'ils étaient, etc., et qui se trouvent menacés de basculer parmi les couches populaires, si on peut dire. Et pour ces, alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces couches-là? Est-ce qu'on essaie de les maintenir sur place ou pas? Et la politique des élus locaux, bon, Saint-Ouen, c'est encore communiste, si je ne me trompe, ils doivent vouloir, au Front de Gauche, c'est pas une association comme ils, Front de Gauche, je sais pas quoi, non, Front de Gauche, Parti de Gauche, peut-être NPR là-dedans, j'en sais rien, je sais pas quelle est la composition des municipalités à dominante communiste, mais peut-être qu'ils veulent maintenir sur place, à juste raison, et en fait, on peut dire, un minimum de classe populaire, mais le plafonnement, faut savoir, le plafond, qui l'intéresse, quoi. Les plus pauvres ne peuvent plus rester. Le logement social, tel qu'il est conçu, ils disent toujours, acheter du foncier, c'est très cher. Les entreprises publiques, mettons SNCF, qui vendent des terrains aujourd'hui, c'est la logique du marché. La SNCF, qui est pour combler son déficit, elle aussi, et faire ses investissements au réseau ferré de France, puisque c'est découplé maintenant, il y a ceux qui contrôlent le rail, et ceux qui contrôlent les passagers, les wagons qui circulent dessus, peu importe, vend le plus cher possible les emprises ferroviaires qui ne servent plus pour faire des investissements dans les transports. Mais quand on vend des emprises ferroviaires très chères, les bâtiments qu'on fait dessus, évidemment, le prix s'en ressent, que ce soit du privé ou du public. Donc, alors on peut faire des politiques de plafonnement. C'est aussi le programme de Mélenchon, ça. Hein. Bon, on peut dire dans une première phase, bon, tout ce qui contribue, somme toute, à faciliter réellement l'existence des classes populaires dans les villes, ça veut dire qu'on commence par ne pas les déloger, et pas permettre d'y rester, non pas à l'état de survie, on peut dire, est bon, est positif, faut pas jouer la politique du pire. Mais il faut pas se faire d'illusions, parce qu'il y a des politiques dites sociales qui sont destinées, en fait, à maintenir le système en place. C'est un problème de rapport de force, hein, vous savez. Vous voyez, quand il y a des municipalités réformistes, il y en a, elles deviennent, pour l'instant, elles ne sont pas réformistes, hein, maintenant c'est fini. Elles ne sont plus social-démocrates, elles sont social-libérales. Leur cible, si je ne veux pas leur cible au sens d'ennemi, j'allais dire leur clientèle, leur cible au sens économique, ce sont les classes moyennes de toutes sortes, hein, celles qui sont à la bourgeoisie, qui n'ont pas de problème de logement, et les classes populaires, c'est ça. Maintenant, ils commencent à se dire, attention, si on veut gagner la majorité aux élections, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse un peu aux classes populaires. Mais jusqu'où peuvent-ils le faire? Et jusqu'où? Parce qu'un promoteur, hein, si vous avez Bouygues, ou un promoteur, ou un constructeur, parce que vous avez aussi les constructeurs. Il y a les promoteurs, c'est une chose, puis les constructeurs. Il y en a trois en France, hein. Il y a Eiffage, je prends les firmes, Bouygues et Vinci. Trois multinationales. Bon, eux, il n'y a pas de problème. Quand ils construisent, c'est pour faire du fric. Si à Saint-Ouen on les fait chier, parce que, eh ben, ils vont à côté. Ils iront à Villemomble ou à, je sais pas où, à côté, dans 9-3 ou ailleurs. Hein, je veux dire que le rapport de force, je le répète, est favorable à la... Il y a une époque où on construit massivement du logement social en France, pour rester dans une optique réformiste. Vous n'avez pas connu cette époque. Moi, je l'ai connue. C'était l'après-guerre. Il y avait deux choses. Un, il fallait beaucoup d'ouvriers dans les usines. Donc, il fallait trouver le moyen de les loger à proximité des usines. D'où construction massive de HLM pour loger les ouvriers. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, utilitariste de la politique bourgeoise. Il y avait autre chose. C'est qu'il y avait, on sortait de la guerre. À la libération, il y avait une situation qui était un peu différente, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Quand je disais que le mouvement ouvrier avait disparu, il était très largement contrôlé, ce mouvement ouvrier, par les partis staliniens ou sociodémocrates plus classiques. Mais la bourgeoisie eut la trouille, parce qu'elle avait collaboré pendant la guerre. Un, il y avait l'armée rouge qui était pas loin. Deux, bien que les accords de Yalta avaient prévu que ça irait pas au-delà. Trois, il y avait quand même, à la sortie de la guerre, des milliers d'ouvriers qui étaient en armes, parce qu'ils avaient lutté dans la résistance, franc-tireurs partisans. Bon, ça, la bourgeoisie était sur la défensive, collaboratrice, armée rouge, Bon, il a fallu quelques années, bien entendu, on a eu au pouvoir, sont arrivés, il y a eu le plan Marshall, les Américains qui ont influencé, et il y a eu l'arrivée au pouvoir, bien entendu, on a viré les communistes d'abord, et puis au pouvoir sont arrivés, et sont restés, pardon, un parti de démocrates chrétiens qui s'appelait le Mouvement Républicain Populaire, et la SFIO, section française de l'International Socialiste, qui bien entendu s'est empressé de faire une politique de droite. Bon, ils sont tranquilles. Mais on peut dire, et les HLM, la sécurité sociale et tout ça, ça a été. Ça existait avant, les HLM sous d'autres formes, hein, beaucoup moins, ça s'appelait HBM, Habitation à Bon Marché, ça date du 19e siècle. Mais c'était la même chose. Fallait l'industrialisation, fallait loger les ouvriers, mais il y avait eu la Commune de Paris, il y avait l'anarcho-syndicalisme, il y avait des insurrections, il y avait des grèves. Comment améliorer la condition ouvrière pour éviter que les ouvriers se révoltent? Non seulement il fallait les ouvriers qui soient à proximité des usines, mais il fallait que les ouvriers soient calmes. En plus, ils étaient dans la rue, il fallait les inciter à être chez eux et vivre en famille, en père de famille. Au lieu de traîner dans les cafés et dans leurs arrière-boutiques, hein, et dans les locaux syndicaux à préparer des insurrections. Donc, on a fait une politique du logement social, comme on appelait ça, aussi en France qu'en Allemagne qu'ailleurs. Et après la guerre, donc, c'est encore plus évident. Mais aujourd'hui, le rapport de force fait que, aujourd'hui, le nombre de logements sociaux produits est dérisoire, alors que la population s'appauvrit massivement. Hein, je ne sais pas si vous avez lu les derniers bouquins de ces deux sociologues connus, français, qui s'appelle les Pinson-Charlot, hein, soit sur le sarkozisme, sur la... peu importe, hein, ils ont écrit plusieurs bouquins récemment. La population, il y en a d'autres, je ne vais pas faire la biographie, la population française, pour ne parler d'elle, mais c'est valable ailleurs, s'appauvrit massivement, et la question que se posent les stratèges les plus lucides, les plus intelligents, les plus organisés, les classes dirigeantes, c'est jusqu'à quand le peuple va supporter la situation qu'il vit. Je vous recommande à cet égard un excellent article qui est sorti sur un site internet anarchiste européen. Ce site internet s'appelle, facile à voir, vous faites Google, il s'appelle Divergence. Et sur ce site vient d'être mis un article en français d'un économiste américain, anarcho-marxien, qui s'appelle Paul Matic. Et il dresse, c'est un article qui fait l'équivalent de 2 pages et demi à tout casser en français. Et vous verriez ce qu'il dresse de la situation aujourd'hui, tant sur le plan social que sur le plan écologique, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne et américaine. Et la question qu'il pose, c'est jusqu'à quand les peuples vont supporter ça? Il y a des signes qui indiquent que le capitalisme ne peut plus sortir de la crise. Je laisse de côté la solution dictatoriale. Hein. On sait que classiquement, quand ça ne va plus et qu'on ne peut plus contrôler, on met une dictature. Mais la question est posée, du mécontentement général, etc., pour l'instant, la chance des capitalistes, c'est qu'il n'y a pas, ça fonctionne beaucoup plus, si on peut dire, ça fondé sur la résignation et le fatalisme des victimes. Mais ici et là, commence à se manifester, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, aux États-Unis aussi d'ailleurs, des signes de rébellion illégale, massive, dans certains endroits, dans des quartiers pauvres des États-Unis aussi, il n'y a pas qu'en France. Hein. Et bon, je vous recommande cet article, il est sorti dans cette revue, d'ailleurs ceci, je vous le recommande, il est très bon, il s'appelle Divergence, mais il est sorti hier, c'est un article, c'est le premier d'ailleurs qu'il voit de Paul Matic, qui montre que entre décomposition sociale et désastre écologique, qui ne va faire que s'accroître, et le développement durable, c'est du bidon. La logique du développement durable, vu par les capitalistes, c'est quoi? C'est polluer moins pour polluer plus longtemps. Pas autre chose. Ouais, pas autre chose. Il y a des tas de... Il y a très peu d'études en France là-dessus, il y en a quelques-unes quand même, hein. Mais aux États-Unis, en Angleterre, en Amérique latine, en Espagne, vous avez des montants d'articles qui montrent que c'est du bidon. Prétendre sauver le capitalisme et sauver la planète, comme on dit à la fois, c'est faux. On sauve l'un, on sauve l'autre. Mais si on sauve le capitalisme, entre guillemets, pas vrai, parce que, comme disait l'autre, c'est mis au barbarie. S'il n'y a pas de socialisme, importe le mot, ce qu'on met dessous, non pas peu importe, mais on aura la barbarie. La barbarie, ça peut être un mélange de dévastation écologique et de panique et de décomposition sociale avec, je crois, pour savoir ce que ça donnerait, il vaut mieux lire un certain nombre de bouquins très bons de science-fiction, avec des dictatures de technocrates éclairés, avec des villes absolument, comment dirais-je, apocalyptiques, avec une élite vivant dans des quartiers complètement bunkerisés. Je vous recommande un excellent film, par exemple, je suis un cinéphile, j'en profite, que vous pouvez trouver en DVD, qui est fait par un grand spécialiste du film d'épouvante, qui est un homme de gauche, très, très proche des anards, il est connu, il s'appelle Romero, Et il a fait il avait fait un truc qui était La Nuit des Morts Vivants, c'est un classique, mais il en a fait un beaucoup plus récent qui s'appelle Le Pays des Morts, Land of the Dead. Et ça montre une ville où l'élite vit dans des quartiers chics, complètement bunkerisés, luxueux, avec une périphérie composée de prolétaires qui travaillent au service, hein, dans tous les boulots, pizzeria, lavage, nettoyage, mais qui sont contrôlés, qui sont rejetés, mais qui sont périphérie. Et puis il y a les gens dont on ne sait pas quoi faire. En France, ils appellent ça les exclus. C'est complètement bidon comme notion, parce que s'ils étaient vraiment exclus de la société, ils ne poseraient pas problème, les exclus. Ça, c'était une quoi. Je ne reviens pas là-dessus, c'est un autre débat. Mais il y a des gens dont on ne sait pas quoi faire. Alors, comme disait Tony Blair, les inemployables. Et dans le film, ces inemployables sont des zombies. Et l'histoire du film, c'est la prise d'assaut par les zombies de la ville des riches. Et dans le film, peu à peu, on s'aperçoit, le spectateur au début voit les zombies comme des monstres, et peu à peu, le film est très bien fait, c'est un film qui est techniquement très bien fait, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le loupin de prolétariat qui est en train de se révolter, qui s'allie peu à peu avec le prolétariat, et qui conquiert le centre, et qui liquide. Et après, au lieu de prendre le pouvoir, ils s'en vont ailleurs parce qu'ils disent, on ne va pas remplacer les riches, on va fonder un autre type de société. Voilà, je vous résume le film. Hein. La morale du film.
Attends.
L'histoire du...
C'était la loi de
46. Ah oui.
La loi de 46 qui permettait d'avoir des loyers...
Ça s'appelait le blocage des loyers, oui. Oui, c'est Laurent Fabius qui a démantelé la loi. Oui. Oui.
Je prends plusieurs questions.
Ben, je prends plusieurs questions si elle renvoie au même truc.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'abord?
Oui,
La Horde, oui. Je sais pas, je la connais pas. Moi, j'ai pas la télé, alors je peux pas vous dire. Ouais. Pour les contrôler, oui. Ah oui, parce
que... Moi, ce qui m'a plutôt interpellé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'architecture des
solutions. Oui.
Alors, je veux dire, on n'arrête pas de vous dire que la délinquance est dans les ratios, qu'il y a moins de moyens de
joueurs,
etc. Alors, comment on peut arriver à faire une architecture sécuritaire sans se dire qu'uniquement, il va se passer des choses?
Bon, alors ça, Mathieu Rigou, c'est un bon boulet. Moi, je vous recommande, entre parenthèses, un bouquin, oui. Bon. Ah bon, troisième question. Alors là, bon, d'accord. Oui.
C'est la question par rapport à comment on peut dire qu'on va faire une architecture sécuritaire dans un monde qui est quasiment sécurisé, et contrôlé,
Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on y est, ou je réponds aux deux? Là?
Non, moi j'ai quelque chose à dire, mais c'est pas
une question. Ah ben, tu le dis maintenant ou tu le dis après? Bon. Alors, la loi de 48, c'est une loi, ça fait partie justement de ce que je disais tout à l'heure. La bourgeoisie était sur la défensive, et il y avait simultanément ce fait-là, et l'autre, il fallait loger le maximum de gens encore, pour les avoir sous la main, pour travailler. Bien que la construction de HLM, il faut pas oublier qu'à l'époque, on construisait l'équivalent de 450 000 HLM par an, dans la période, j'allais dire après, aux années 60. On a construit massivement des HLM, mais il fallait, pour diminuer la pression des gens qui demandaient des logements, bloquer les loyers pour que les gens qui n'avaient pas de HLM, qui avaient droit, qui étaient inscrits sur les listes, puissent continuer à vivre, si on peut dire, à avoir un toit. Et on a fait cette loi. Alors, il y avait deux raisons, donc. Le logement était une question, là-bas, il y avait des mouvements, faut pas l'oublier, la loi de 45, 46, 47, c'était aussi la reconstruction. Il y avait eu des villes qui avaient été détruites. Alors, dans les parties qui n'avaient pas été détruites, il fallait que les gens qui étaient pauvres puissent y rester. Il y avait la menace que j'évoquais. Les HLM qui se construisaient très vite, mais on n'en était encore qu'au début. Et le gouvernement de l'époque a instauré la loi de 48, qui va être peu à peu grignotée et démantelée, et où disons, elle va être le démantelée le plus rapidement, ça va être du temps où Laurent Fabius va être Premier ministre. Où là, on va réduire les logements qui tombaient sous la loi de 48, au nom de quoi? Au nom de l'insalubrité, de la dégradation, en disant que beaucoup de logements qui sont sous la loi de 48 sont des logements dangereux, des logements insalubres, et il faut rénover. Donc ça a permis de lever la loi de 48, et maintenant elle est encore appliquée, mais vraiment, je n'ai pas les chiffres, plutôt je n'en souviens pas, mais un pourcentage extrêmement réduit du parc, on appelle toujours ça, le parc social de fait. Ce qu'on appelle le parc social et les logements sociaux, et le parc social de fait, c'est les vieux logements dégradés, immeubles, qui sont sous la loi de 48. Et c'est devenu dérisoire hein, comme proportion. Tout ça parce qu'il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé. Justement, ça renvoie à la gentrification, hein, aux politiques de reconquête des quartiers populaires au profit des classes moyennes, avec des opérations de logement, soit de réhabilitation. Parce qu'on peut prendre des vieux logements dégradés et les réhabiliter, mais à ce moment-là, les gens qui étaient dedans ne peuvent plus. Alors on les reloge. On les reloge en majorité, mais on les reloge, dans des périphéries de plus en plus lointaines. Parce que plus on est proche de du centre des villes, et moins il y a de foncier, comme on dit si bien, abordable, pour construire des HLM.
Mais
une loi
comme ça, aujourd'hui, c'est impossible.
Hein. Ah, c'est impossible, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de construire en masse pour les gens qui sont pauvres, sur le plan économique. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de la main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre non qualifiée, qu'elle se démerde. Parce qu'il n'y a pas un rapport de force. On a bien le DAL. On a entendu parler du droit au logement, ce mouvement. Hein, et puis il y a la Confédération, nationale du logement, qui est plus ou moins contrôlée par le PC. Le droit au logement, bon, essentiellement défend les plus pauvres, entre les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont réduits aux chambres d'hôtel ou aux immeubles taudis, ceux qui sont quasiment à la rue, d'ailleurs pour certains, à savoir les travailleurs qui travaillent dans les services, la néo-domesticité des emplois de service, style caissière de supermarché, ceux qui nettoient les carreaux, qui nettoient les moquettes dans les bureaux, à savoir la population active, majoritairement féminine d'ailleurs, d'origine immigrée. Le DAL défend essentiellement ces gens-là. Bon, mais la politique sociale, comme il n'y a pas une pression... Eux, ils font des opérations coup de poing, spectaculaires, en ameutant les médias. Au début, le droit de réquisition, par exemple, qui existe, dans la Constitution même. Et le droit de réquisition, ça, c'est même pas 1000 logements qui ont été réquisitionnés en France. Elle a même été inscrite, Chirac, dans un truc démagogique au cours de sa campagne, et sa dernière campagne électorale, a fait inscrire le droit de réquisition dans la Constitution. Mais vous savez comme moi, la Constitution, si on appliquait tous les droits qui sont inscrits, putain, ça serait presque le socialisme, hein. D'abord l'égalité, et d'un... Bon, rigolez là. Le droit d'acquisition, c'est le préfet dans chaque département qui peut obliger un propriétaire à loger des gens dans des appartements vides. Mais ça demande des procédures, des avocats, etc. C'est très peu utilisé. En revanche, c'est pour ça que le DAL fait des occupations sauvages. Alors selon les rapports de force, la conjoncture, les médias, etc., soit on laisse tomber, soit côté gouvernemental. Soit on attend qu'on parle plus de la chose, et après on fait venir les flics au bout de temps. C'est un peu ce qui arrive avec les intermittents du spectacle, qui occupent à Paris un immeuble abandonné depuis des lustres, qui est la propriété de la mairie de Paris. Alors Delannoy essaie de les déloger, il n'ose pas faire intervenir les flics, il fait des propositions pour les reloger, qui sont d'ailleurs dans les immeubles plus petits, donc ils ont refusé, et on en est là, quoi. Mais c'est toujours pareil. On peut dire que dans une optique légaliste, la loi ou les mesures d'application d'une loi, une loi nouvelle ou des mesures qui appliquent une loi qui n'est pas appliquée, ça ne peut être obtenu que dans un rapport de force. Sinon, non. Le rapport de force est en faveur des classes dominantes. Donc on ne le fera pas. Et c'est pour ça qu'on ne le fait effectivement pas. Sauf quand il y a un fait divers. Rappelez-vous la rue du Dragon, là, il y a eu tout un truc. Pierre Bourdieu s'en était mêlé, les intellos. Bon, on a relogé les gens, mais ils étaient 60 à demander un logement. Bon, on a pu les disséminer, les reloger. Quand on, mais on, s'il y avait évidemment 150 opérations du genre rue du Dragon à Paris, qui est dans le 6e arrondissement chic, à côté de Saint-Germain-des-Prés, ça voudrait dire qu'on est déjà dans un mouvement social très important. C'est ce qui s'est passé en Italie dans les années 70, je cite un exemple, où il y a eu un mouvement très massif d'occupation illégale de logements. Et il a fallu faire des opérations policières, déclencher les trucs terroristes, mettre l'extrême droite et puis des provocations policières pour justifier la répression, etc. Bon, pour venir à bout de ce mouvement, qui a quand même duré 5 ou 6 ans en Italie. Voilà, il est qualifié de terroriste les gens qui occupaient les logements. Alors, l'architecture de prévention situationnelle sécuritaire, c'est pour ça que je parlais de Mathieu Rigousse, bon, vous ne l'avez pas vu, ce sociologue. Il y a deux bouquins qui sont sortis que je vous conseille. Celui de Mathieu Rigousse qui s'appelle L'ennemi intérieur et l'autre d'un gars qui s'appelle Hassan Ben Messous, qui est sorti plus récemment, l'année dernière, qui s'appelle Opération Banlieue. Il faut savoir une chose. Je disais tout à l'heure que la bourgeoisie est à l'offensive, mais qu'elle se pose des questions sur la patience des couches populaires. Et ce qui se passe dans certaines cités, les racailleux, etc., l'alerte de novembre 2005 fait que on pense en haut lieu que tôt ou tard ça va péter en France. En haut lieu. Et qu'il faut s'y préparer. S'y préparer par des lois sécuritaires. Vous savez quand même la France, on en est quand même, il faut quand même le savoir. Depuis 81, l'arrivée de la... Depuis 80, la loi sécurité et liberté, pour les plus anciens, Alain Perfit, garde des Sceaux, président de la République Giscard d'Estaing, c'était la première. Depuis cette loi-là, on a, à l'heure qu'il est, 36 lois sécuritaires qui se sont pilées les unes par-dessus les autres, qui sont de plus en plus restrictives au plan des libertés. Hein, ça, faut le savoir. Hein, que ce soit les attroupements au pied des immeubles, enfin, les foules de voitures, enfin, je ne donne pas tous les trucs, hein, les fichiers, machin. Bon. Deux, ça, c'est des lois. L'appareil répressif, les nouvelles armes, on teste depuis bien longtemps, et on, quand je dis tester, on met au point et on teste des armes pour réprimer physiquement les manifestations lorsqu'elles vont devenir plus dures, avec une fusion croissante entre armée et police. Il y a en France des camps d'entraînement, il y en a le premier, les Dégrès, vous pensez après 68, en Dordogne, à Saint-Astier, du temps où un ministre qui s'appelait Raymond Marcellin était ministre de l'Intérieur. Ce camp de Saint-Astier, c'est là où s'entraînent les gendarmes, encore aujourd'hui, pour réprimer les manifestants. À l'époque, l'ennemi était les gauchistes. Aujourd'hui, l'ennemi, ce sont les racailleux, entre guillemets. Et vous avez, dans ces camps, des reconstitutions partielles d'habitats urbains, comme un Disneyland un peu, tel qu'il est en France, l'habitat dans, notamment dans les cités, des bars, des tours, des parkings, des centres commerciaux. Et vous avez des policiers, les uns jouent aux policiers, et les autres jouent aux racailleux. Je vous signale que ces exercices se soldent par des blessés. Ils sont tellement pris dans l'action qu'il y a quelquefois, il y en a qui se retrouvent à la clinique ou à l'hosto, hein, je vous signale tout de suite. Bon. Et ça, ça date, je répète, ça a été créé en 1970. C'est loin, c'est des gauchistes. Maintenant, c'est ça. Et mais alors, vous avez surtout, dans l'Aisne, un camp gigantesque, qui n'est pas terminé, enfin ici, il y a des tas de quartiers entiers qui sont terminés, beaucoup plus conséquent, où s'entraînent l'armée, les différents contingents des armées européennes pour réprimer les futures insurrections dans les métropoles. Ça s'appelle, face à ce qu'ils appellent les guerres de la quatrième génération, c'est des révoltes populaires massives dans les grandes villes, européennes hein, en l'occurrence. Naturellement, il y a des conseillers israéliens, c'est les orfèvres en la matière, en matière de répression urbaine. Vous avez donc des entraînements, alors je vous conseille un livre qui est sorti l'année dernière, de Yatsen Membesou, qui s'appelle Opération Banlieue. Ce gars-là est un sociologue. Bon, à la différence de Rigousse, qui est anarchiste, le seul mec-là, il bouffe à tous les râteliers. Et justement, parce qu'il bouffe à tous les râteliers, il a assisté aux opérations d'entraînement des troupes. Dans les troupes, vous avez des flics qui simulent des populations civiles. Comment repérer des agitateurs dans une foule, une manifestation? Comment éviter de tuer une femme enceinte dans une manifestation? Vous avez des femmes flics qui se déguisent en femmes enceintes, avec des oreillers, machin. Voilà. Attendez, j'invente rien, rendez-vous tout ça. Vous avez des commandos qui sont entraînés depuis des années en Yougoslavie, enfin, en Bosnie, au Kosovo, en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, parachutistes, vous avez des fusiliers de l'air, vous avez des commandos de la marine, vous avez des chasseurs alpins, qui sont spécialement entraînés pour ce qu'on appelle la guerre urbaine. Alors, officiellement, pourquoi guerre urbaine? C'est pas du tout fait pour réprimer les manifs en France. C'est parce que dans l'avenir, les guerres seront urbaines. Puisque la majeure partie de la population vit dans les villes. En fait, ces commandos sont spécialement entraînés pour réprimer des manifestations qui peuvent survenir en France. Avec aussi des nouvelles armes. Armes soi-disant non létales, mais peuvent rendre infirmes pour la vie. Rendre sourd, par exemple. Rendre aveugle. Je vais vous donner, il y a toute la liste. Bien entendu, tout cela est plus ou moins secret. Il faut vraiment chercher des informations pour trouver ça. Dans notre démocratie, on ne va tout de même pas dire que la classe dirigeante est en train de préparer les forces de l'ordre à réprimer dans le sang des insurrections futures. Mais eux, ils pensent. C'est faux de croire que la situation... Quand ils disent qu'il y a moins de délinquance, attention, il y a de plus en plus d'agressions contre les gens. Pourquoi? Il y en a de plus en plus. Parce que les choses, les objets sont de plus en plus protégés. Avec des systèmes d'alarme, avec des nouvelles portes blindées, les bagnoles... Bon, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile de voler des objets dans des baraques, dans des immeubles, donc dans des voitures. Donc, pour pouvoir voler quelque chose, carte bleue, fric, etc., il vaut mieux s'attaquer aux gens. Donc, augmentation de la violence contre les individus et diminution de la violence contre les objets. Mais, on continue à, néanmoins... Architecture de prévention situationnelle. Je ne vais pas vous donner d'exemple trop, parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, actuellement, tous les nouveaux logements sociaux, aucun ne doit être, le toit ne doit jamais être en terrasse. Parce que tous ces gens-là ont vu un film qui a circulé dans les écoles de police, qui a eu un prix au festival de Cannes. La police a protesté contre ce film. D'ailleurs, quand le réalisateur est descendu les marches à Cannes, les policiers qui étaient le long des marches, toujours là, pour le truc officiel, ont tourné le dos en tapant sur leur bouclier, en signe de protestation. Ce film s'appelle La Haine, de Mathieu Kassovitz. Et ce film montre, évidemment, il est du côté des racailleux, comment ces gars-là s'organisent pour lutter contre la police, foutre le bordel, entreposer des munitions et de la dope sur les toits-terrasses. Donc, supprimation des toits-terrasses, qui peuvent servir pour les guetteurs, qui peuvent servir pour balancer des caddies et des frigidaires sur les forces de police, comme c'est arrivé en 1997 au Mirail à Toulouse. Donc, suppression aussi des loges de concierge au rez-de-chaussée. On les met au premier étage. Sur le rez-de-chaussée, il peut y avoir les concierges jouent le rôle de délateurs, vous le savez, les gardiens, dans les cités. On les met au premier étage pour les protéger, parce qu'on ne peut pas rentrer à ce moment-là. S'ils sont au rez-de-chaussée, on peut avoir des opérations de représailles contre eux. On les met au premier étage, dans ce qu'on appelle avec des loges avec des bow windows, c'est-à-dire des vitres en saillie qui leur permettent de surveiller les lascars qui tiennent les murs en bas sans se déplacer. Exemple encore, il y en a plein. Supprimer toutes les impasses, les recoins qui sont propices aux embuscades, au trafic, etc. Limiter la hauteur des haies à 70 cm pour pas qu'on puisse se cacher derrière. Implanter dans les... Alors maintenant, ce qu'on appelle la résidentialisation. Faire en sorte qu'une partie de l'espace public, celui qui se trouve au pied des immeubles, soit semi-privatisé, bordé de haies, de grillages, de clôtures, qui permettent aux gens qui y habitent, soit au niveau d'un bloc entier, d'un immeuble entier, soit au niveau d'une cage d'escalier, de se sentir propriétaire de cet espace semi-privatisé, dans lequel ne pourront pas pénétrer ceux qui n'habitent pas dans l'immeuble. On appelle ça officiellement résidentialisation. Ça fait bien. J'habite une résidence. Ça veut mieux de dire j'habite une cité. Parce que, alors, donc on diminue la portion d'espace public et on le protège. Et on le protège comment? Dernière innovation en date. On introduit des barbelés dissimulés à l'intérieur des haies. C'est-à-dire, si jamais il y a des jeunes qui veulent passer à travers les haies, ils risquent de s'écorcher salement avec les barbelés qui sont cachés à l'intérieur. Dernière innovation en date, il y a des architectes qui sont là-dedans, et des paysagistes. Sont tous. Vous savez, en Allemagne, il y a eu des architectes qui ont fait des plans pour les camps de concentration. Vous avez des architectes en France qui travaillent et qui gagnent leur argent et assez bien dans la prévention situationnelle. Le dernier en date, ça c'est les paysagistes, cette fois-ci aussi, dissimuler à l'intérieur des clôtures, des haies, des plantes vénéneuses. Parce que si vous passez dans la haie, vous n'allez pas mourir, ce n'est pas des plantes carnivores qui vont vous bouffer ou qui vont... Bon, faire. Mais vous risquez d'être salement atteint avec ces plantes-là. autre exemple, mettre devant les immeubles, alors cette fois des immeubles de bureaux plutôt, des bandes de sable de 15 cm d'épaisseur. Pourquoi faire? Parce qu'il y a des gens qui vont, des jeunes qui vont essayer de voler des ordinateurs dans les bureaux. Il faut savoir s'ils s'approchent des bureaux dans la nuit ou pas. Donc il y aura des traces de pas. Si c'est une fine couche de sable spéciale, je ne sais pas, on va les chercher, mais enfin bon, on reconnaîtra l'empreinte de leurs chaussures Nike ou autres marquées dans le sable. Ou alors on met beaucoup de sable. S'ils font un truc à la voiture Bélier, ils vont s'ensabler avec la voiture. Bon, je pourrais vous donner, je suis interminable, hein, ça s'appelle l'espace d'architecture de prévention situationnelle. Il y a des cours qui sont donnés dans certaines écoles d'architecture. Il faut savoir, bon, alors ça, je vous parle des lois, je vais vous parler des nouvelles armes, je vais vous parler des entraînements, les chasseurs alpins, par exemple, ceux dont je parlais tout à l'heure, qui sont, eux, ils apprennent à monter sur les façades pour prendre d'assaut les... On a fait des tests à Villiers-le-Bel, quand il y a eu la répression à Villiers-le-Bel, il y a 4 ans. On a fait des tests aussi avec des nouveaux projecteurs, pour qu'il n'y ait plus de recoins et d'encoignures dans l'ombre, et avec un verrouillage militaire ou policier à la Villeneuve de Grenoble, cet été dernier, juillet. Vous voyez ? Mais lisez, et si vous n'êtes pas convaincu, il y a peu de livres en France qui sortent, il y en a beaucoup plus. En France, les gens qui savent, qui sont au courant, qui travaillent là-dedans, évidemment, on ne va pas dire qu'on se prépare, je le répète, à mater, je veux dire, par des méthodes militaro-policières, sauvages, si on peut dire, même si elles sont très technologiquement très, très sophistiquées, on ne peut pas l'annoncer. D'abord, en plus, il ne faut pas que les autres soient au courant, quoi. Qui est-ce qui lit ça? Bon, évidemment, c'est pas les jeunes des cités qui lisent ces bouquins. Sauf s'il y a un Mathieu Rigousse qui va faire une conférence chez les jeunes de cité pour dire voilà ce qui vous attend. Bon, il le fait, lui. Moi aussi je le fais. Mais on est une minorité. En général, on parle entre gens de bonne compagnie de savoir comment on peut assurer la sécurité. D'ailleurs, on ne dit plus sécurité. Chavènement a mis sur orbite un autre terme qu'il a tiré pour dire que c'était républicain, la sécurité était une valeur de gauche. Et il a exhumé un vieux concept de la Révolution française, la sûreté. La sécurité, c'est pour les choses et les objets, la sûreté, c'est pour les individus. Sûreté, ça fait mieux que sécurité. Sécurité, ça fait sécuritaire. C'est comme les adjoints à la tranquillité publique, pareil, euphémisation. Donc on a des appels d'offres, comme on dit chez nous, là, en sociologie, en anthropologie, alors ça s'appelle ville et, ville et sûreté, ou la ville durable et ville sauve. Alors, sauver. Principe de précaution aussi. On appelle ça aussi l'application du principe de précaution. C'est pour ça que j'ai aménagé les lieux pour prévenir le crime, c'est pas moi qui dis ça, c'est eux. Et qu'on pense que, en fait, alors, vous allez me dire, est-ce que ça sera efficace? On n'en sait rien. Ce qu'il y a, c'est que c'est le problème, là. Je vous recommande. Attendez, il m'est arrivé ce matin. J'ai reçu d'un policier qui travaille dans la pré-répression des banlieues, de choc, mais il a démissionné de la police, un bouquin qui est un polar. Alors je vous le recommande, le flic s'appelle son vrai nom, Patrick Delachaux, son bouquin, ça s'appelle Grave Panique. Il est dans la police, il y a été 17 ans, et il a été au front, en Seine-Saint-Denis, au front. Et au fur et à mesure que les années passaient, il s'est aperçu que la police se comportait dans les quartiers populaires comme des forces d'occupation. Il a démissionné. Et il a fait... Alors déjà, il avait été dans des zones dures, dans des pays... Il a été à Bangkok, il avait été avant, je ne sais plus où encore. Bon, peu importe. Et là, ça s'appelle Grave Panique. C'est le récit de son expérience. Alors c'est un roman, hein. C'est un roman, hein. C'est pas un... Mais enfin, ce roman ressemble furieusement à un documentaire. Et il explique... Comment une partie de la police est entraînée physiquement et psychologiquement à considérer les jeunes de cité comme des ennemis qu'il faut abattre. Bon, inutile de vous dire, bon, le mec il s'est tiré, il s'en fout, il gagne du fric maintenant en faisant un roman. Bon, il doit gagner moins bien. Je ne sais pas s'il conserve son traitement de la police, il a demandé à sortir de la police, etc. Il est venu présenter son... Moi je ne l'ai pas vu le mec, j'ai reçu le bouquin, il m'a envoyé, mais... il est venu présenter son bouquin en librairie à Paris, je ne sais pas s'il est allé dans d'autres villes. Et il est sorti ce bouquin il y a 3 mois à peu près. Je vous le conseille, parce que si vous voulez lire quelque chose qui est quand même plus relaxant, encore que le bouquin de Rigousse qui est très... celui de l'autre, là, de Messous, qui s'appelle Opération Banlieue. Opération Banlieue, ça commence par une fiction. Il y a des émeutes plus graves que d'habitude. On est en 2012, et on décide d'appliquer les lois en vigueur, les méthodes en vigueur, en utilisant les corps entraînés en vigueur, les rênes réelles, pour réprimer une émeute où on compte qu'il ne faudrait pas dépasser 40 ou 50 morts, parce qu'après, ça peut créer des problèmes dans l'opinion publique. Comment aussi simultanément manipuler l'opinion publique pour dresser l'opinion publique, qui n'existe pas, comme chacun sait, puisqu'elle est formatée, elle est forgée, etc., contre les... Bon, voilà. Alors, ça commence comme ça par une fiction, celui-là. Là. Mais c'est pas une fiction, l'autre, c'est un... celui dont je parle, c'est le Ben Messouz, donc Opération Banlieue. Lui, c'est lui qui relate comment s'entraînent physiquement, actuellement, les troupes chargées du maintien de l'ordre. Mais celui-là, il est bien, c'est un polar, hein, ça se passe. Parce qu'il y a des... il y a les rivalités entre bandes, hein, faut pas non plus, faut voir. Hein, vous avez les Asiatiques, vous avez les... c'est vraiment le foutoir, les Africains, les Maghrébins, alors les Algériens, les Marocains, les différents territoires. Enfin, si vous voulez un bon document ou un bon documentaire sur... Mais là, c'est vu d'un point de vue policier. Sauf que ce policier abandonne le point de vue policier pour... Bon, il n'est pas devenu un nanar pour autant. Hein, je sais pas, j'ai pas lu le bouquin, moi j'ai feuilleté, etc., puis j'en ai entendu parler. Bon, je vous le recommande, il est sorti il n'y a pas longtemps, ça s'appelle donc Grave Panique. Patrick Delachaux. Voilà. Alors, la question que tu voulais me poser.
Non,
ah oui, donc la remarque que tu voulais faire. Il y avait la jeune fille qui a demandé ça. Ah, c'était vous. Moi, là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Bon, j'avais fait un bouquin là, qui s'appelle « Le nouvel ordre local », c'est un jeu de mots par rapport à l'époque, on parlait du nouvel ordre mondial, et je termine sur, ça s'appelle un totalitarisme citoyen. C'est-à-dire que si fascisme il y a, il faudra utiliser un autre mot d'ailleurs, ça ne sera pas des retraites au flambeau, des autos d'affaires, des gens avec des chemises noires, des uniformes, qui défilant ou pas de loi. Ça sera que chaque individu aura tellement intériorisé des principes, des valeurs, des préconisations, des recommandations venant des élus locaux, des médias, des gouvernements, que chaque individu va se convertir en tant que citoyen, entre guillemets, en agent bénévole et zélé des finalités de l'État ou bon. Des pouvoirs publics, c'est ça. Le citoyennisme, ce qu'on appelle nous le citoyennisme, c'est une idéologie qui consiste finalement à faire en sorte que l'État central, mettons, délègue beaucoup de pouvoir, bon, c'est des centralisations aux collectivités locales. les collectivités locales délèguent des pouvoirs et des responsabilités, tout en les contrôlant, aux associations. Les associations instrumentalisées, financées, contrôlées par les municipalités, sommes les individus qui sont membres de ces associations, d'assumer les tâches. Alors ça peut être la délation, ça pourrait être la délation, hein, ça peut être ça peut être toute une série de comment dirais-je, d'actes qui étaient jadis faits par des fonctionnaires payés par des citoyens volontaires, hein, pour dire par exemple il faut pas de manifestation qui trouble, mettons, la paix publique la nuit, un truc comme ça. Vous avez par exemple des gens au nom de la démocratie participative qui dénoncent des familles dans les cités, notamment Seine-Saint-Denis, que je connais plus particulièrement, qui dénoncent des familles donc, qui ont acheté une voiture neuve alors qu'ils sont au RMI, parce que ça veut dire qu'il y a un fils qui trafique de la drogue. Vous voyez, ça c'est le, bon, certains parlaient du fascisme quotidien. François Ruffin, qui est un journaliste, bon, très lié au monde diplomatique, pour définir ce régime qui est mélange, Herbert Marcuse, un sociologue américain qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, parlait de tolérance répressive, où il y a des pseudo-libertés, où on peut s'exprimer, faire le, je sais pas, le bébé de chaud, se moquer de Sarko, mettre des gros titres, etc. C'est pas gênant. Au contraire, c'est de la subversion subventionnée, en quelque sorte, hein. La rébellion de confort. C'est pas le fascisme. En revanche, quand il y a des choses sérieuses, avec des rapports de force qui ont des conséquences pratiques, là on rigole plus, c'est la répression. Et donc François Ruffin, lui dit, il y a un mélange par rapport à ce que tu disais, il dit, le régime dans lequel on vit, c'est ni la dictature, ni la démocratie, c'est la démocrature. Un mixte des deux, vous voyez. Autrement dit, là je vais participer à un film, qui est par des jeunes, le titre, il vous dit bien ce que ça veut dire, qui est là sur ce thème, ça s'appelle « Tout est permis, rien n'est possible ». Et c'est un film sur ce thème. Donc, bon, les gars sont quand même bien narco-machin. C'est des jeunes, hein, ils ont 30 ans, 52 minutes. C'est comme en mai 68 a contribué, d'une certaine manière, à renouveler l'hégémonie bourgeoise. Avec d'un côté la permissivité concernant l'individu, vive l'épanouissement individuel, sous toutes ses formes, culturel, sexuel, artistique, tout ce qu'on voudra, l'émancipation collective, zéro, terminé. Donc, comment il y a une dialectique. Et alors, ça plaît beaucoup aux petits bourgeois. On s'éclate, on est libre. Un bobo à roulette avec une trottinette dans un quartier rénové, ça c'est bien. Non, mais vous allez voir. Et les mecs, là, je ne connais pas le film. Les gars, je ne les connais pas, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si je voulais faire des commentaires par moment sur les archives qu'ils allaient montrer de 68. On voit qu'on me dit Bernard-Henri Lévy en train de brandir le truc de Mao. Enfin bon, on dit encore, on va rigoler en faisant le film. Hein. Mais c'est ça le truc. C'est-à-dire, si demain il y a du fascisme, regardez le Patriot Act aux États-Unis, qui est ça a été pris par Bush au moment de la guerre Irak, etc., c'est en fait l'autorisation légale de contrôler tout, le téléphone, les sites internet, etc., mais les gens acceptent, il y a beaucoup de gens qui s'en aperçoivent pas, puis d'autres on dit c'est pour votre sécurité, c'est pour lutter contre le terrorisme. Hein. Je vous recommande un autre bouquin, puisqu'on y est, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je l'ai dans mon sac parce que je le lisais dans le train, de Serge Kadrupani, ça s'appelle « La politique de la peur ». Et comment on utilise la peur pour que les gens adhèrent. C'est-à-dire que les gens n'ont... La dictature, les gens ont peur des gouvernants dans une dictature. Même s'ils adhèrent au départ, Hitler, etc. Mais dans une dictature. Mais là, c'est pas ça, la politique de la peur. C'est créer la peur par tous les moyens avec les nouveaux ennemis et que les gens réclament de l'État qu'il les protège des choses ou des gens qui leur font peur. Ça peut être au nom du principe de précaution. Ça s'appelle la politique de la peur. C'est sorti il y a 4 mois ou 5 mois de... Ouais. Ah ben ça pour être grave, c'est grave, oui.
Non, mais ça super grave, une société qui va aller jusqu'à appauvrir les autres et puis leur foutre sur la gueule, quoi.
Ben oui, enfin, mais attendez, quand même, faut pas être naïf.
Enfin, pour des gens qui sont soi-disant intellectuels et qui ont un cerveau.
Quand on a un cerveau qu'on appartient à la classe dirigeante, on utilise ce cerveau pour pouvoir continuer à diriger. C'est ce qu'on apprend à l'École nationale d'administration, à Sciences Po. Moi, je sors de Sciences Po, je dis tout de suite. Hein. Bon, on apprend ça. Évidemment, on apprend dans les écoles de commerce, on apprend à vendre. Dans les écoles de management, on apprend à diriger des employés. Donc, ils ont des cerveaux. Les polytechniciens, on peut aller encore plus loin. Il y a des gens qui utilisent leur cerveau à concevoir la bombe atomique. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on n'est pas un salaud. Vous avez des salauds avec des QI, moi je crois pas au QI, mais enfin bon, vous avez des salauds très intelligents.
Non mais je veux dire, on a quand même une élite politique qui arrête pas de nous parler de politique sociale.
Oui, mais faut pas croire. Je crois qu'il y a quand même une consigne. Moi je parlais d'enfumage tout à l'heure. La grande différence, moi j'ai vécu à plusieurs reprises dans des pays dits socialistes, connus, mais je ne les ai pas vécus en tourisme, je les ai vécus, bon je ne raconte pas comment, mais à l'époque j'étais jeune, j'avais dragué des nanas dans ces pays-là, ce qui permettait de rentrer dans les familles, donc de voir comment ça fonctionnait au quotidien, en Allemagne de l'Est, en Pologne, j'étais, bon, en Tchécoslovaquie, en Albanie, donc là j'ai pas dragué des nanas, ce n'est pas possible, mais enfin bon, quand même, et à Cuba pendant très longtemps, je me suis marié tout, j'ai vécu de l'intérieur. Et il y a une chose, c'est quand les gens là-bas sentent que le régime est une dictature, le régime, et qu'ils ont un peu la trouille, quand ils voient un dirigeant parler, des dirigeants parler, ils disent, en parlant d'eux, il a dit ça, il. En France, quand les dirigeants parlent, etc., je me rappelle les temps de Gaulle, même récemment, le PS et tout ça, les gens, ils disent, oui, nous, on ne peut pas accepter, nous, on ne peut pas. Les gens s'identifient à leurs dirigeants. Bon, en ce moment, il commence à y avoir comme disent les politologues, il commence à y avoir, comment ils appellent ça, une fracture civique. Il y a la fracture sociale, mais ils croyaient que la fracture sociale allait pouvoir, comme disait Chirac, mais là, il a emprunté ça, comment ça s'appelle, je ne sais plus, ce chercheur, là. Hein? Voilà, Todd. Ce sociologue, et qui avait donc, Chirac l'a repris pour faire campagne. Il pensait que ça n'allait pas créer un certain scepticisme à la longue parmi la population. Alors, du temps de Raffarin, c'est Raffarin qui a s'en sorti là. Ouais, nous sommes menacés par une fracture civique. Autrement dit, les dirigés ne croient plus à ce que racontent leurs dirigeants. Mais c'est la moindre des choses. Il ne faut jamais croire à ce que dit un dirigeant. Jamais. Parce qu'un dirigeant, dans une société capitaliste, s'il n'est pas capitaliste lui-même, il est au service d'un capitaliste. On a eu Giscard d'Estaing, grande famille bourgeoise, Schneider, quand Giscard d'Estaing parlait, c'est le capital qui parle. Mais naturellement, le rôle d'un dirigeant politique, c'est pas de dire, je suis un capitaliste, et je vais vous exploiter, et je vais vous empapaouter jusqu'au trognon. Non, il ne va pas dire ça. Il faut assurer la cohésion sociale et combiner la croissance avec, je sais pas quoi, l'égalité. Ça a toujours été le discours des dirigeants. Il m'est arrivé une seule fois, moi, d'avoir une conversation avec un dirigeant capitaliste, un vrai. Pas un dirigeant, c'était Georges Pompidou. Bon, ça s'est trouvé, bon, par hasard. J'avais un prof, peu importe, à Sciences Po, qui était de droite d'ailleurs, mais de la droite éclairée, il s'appelait Louis Chevalier, c'est un historien du Collège de France, qui avait fait un bouquin très célèbre qui s'appelait « Classe laborieuse, classe dangereuse ». Et bon, j'étais son opposant de service dans son séminaire à Sciences Po, il aimait bien ça. Puis c'est ce qu'on appelle un libéral au sens pas économique, il s'en foutait de l'économie d'ailleurs, mais il aimait bien le débat d'idées. Donc, on était devenus amis. Et c'était donc un ancien élève de l'école normale supérieure, il avait fait ses études avec Georges Pompidou, ils étaient dans la même chambre, c'était des boursiers de l'État tous les deux, origine populaire, et il était resté ami avec Pompidou, même après, quand il est devenu président de la République, et ses premiers ministres, etc. Et puis, bon, moi, à un moment donné, je sortais mes analyses, quand je l'ai revu, ce prof, bien des années plus tard, c'était au début des années 70, et je l'avais livré mes analyses sur mai 68, comme insurrection de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui disait, on veut le pouvoir, l'intelligence au pouvoir. En fait, ça voulait dire, les intellectuels au pouvoir, c'est-à-dire nous au pouvoir. Bon, ce qu'on reprochait à la bourgeoisie, c'est de ne pas leur laisser la place, ce que la bourgeoisie a très bien compris, tout de suite après 68, et là j'en arrive à Pompidou. Alors j'expliquais comment cette petite bourgeoisie intellectuelle s'était radicalisée dans différents pays d'Europe au cours des années 50-60. C'était une classe montante, il y avait de plus en plus de profs, d'enseignants, de cadres, d'enseignants, de techniciens, d'artistes, etc. De plus en plus nombreuses, de plus en plus importantes au plan idéologique. On ne comprendrait pas le cinéma de la Nouvelle Vague, ou le succès de Brassens, de Léo Ferré et d'autres, ou de Jean Ferrat, si on ne prenait pas en compte ça, ses aspirations, et que le problème qu'il y avait aussi bien en Espagne avec la dictature franquiste, au Portugal avec la dictature de Salazar, en Italie avec une coalition qui réunissait la démocratie chrétienne, l'église catholique et en plus la mafia, et en France avec un gouvernement autoritaire, technocratique, vertical, pouvoir personnel avec le général de Gaulle, cette classe-là qui montait était bloqué, qui montait, qui en importance, en nombre, en démographie, tout ce qu'on voudra, était bloqué au plan politique. Elle a été frustrée, notamment ses intellectuels et ses représentants. Elle s'est radicalisée. Et c'est pareil en Espagne, pareil en Italie, pareil au Portugal, pareil en Grèce. Elle s'est radicalisée au point que, non seulement elle voulait en finir avec le gouvernement, mais elle voulait en finir avec la Ve République, donc le régime, et les plus excités, les plus radicaux voulaient en finir avec le capitalisme. C'est pour ça qu'on a eu à l'époque des BHL, des machins, Mao, machin, tout. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que j'avais interprété dans un bouquin, ce que je suis en train de vous résumer, mais je l'ai développé dans un livre, dans des articles, et puis j'en avais parlé avec le prof en question, il m'a dit « Ah !» Et j'ai dit, ce qui s'est passé, c'est que la bourgeoisie, les secteurs les plus lucides ont compris qu'il y avait un coup de semonce, et qu'il était temps de faire ce que font depuis longtemps les démocraties, entre guillemets, capitalistes avancées, pays scandinaves, Angleterre, États-Unis, c'est intégrer ces classes-là dans la cogestion de la société capitaliste à travers des partis de gauche, réformistes ou réformateurs, démocrates, républicains, travaillistes, sociodémocrates, socialistes scandinaves. Ils ont compris ça. Après 68, Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, mot d'ordre, la nouvelle société. Et on ouvre les appareils culturels d'abord, universitaires ensuite, de la recherche, aux leaders de mai 68 et aux étudiants. On crée, et c'est là, on crée l'université de Vincennes, Paris 8. Où là, il y aura Foucault, Deleuze, enfin toute la bande, hein, une partie de la bande. Hein. Bon, j'ai expliqué comment les appareils culturels, j'expliquais tout ça, hein, vous connaissez, j'étais dedans, j'en faisais partie, moi. Mais sauf que je ne faisais pas les promotions comme ça, puisque j'étais quand même dans mes positions politiques, mais on voyait ça autour de moi. Tous les anciens trotskistes, les anciens staliniens, les anciens Mao qui allaient à la soupe, qui gravissaient des échelons partout, dans le théâtre, dans le cinéma, etc. Et j'avais parlé, j'ai dit, bon, ben c'est finalement la longue marche de la petite bourgeoisie intellectuelle dans les institutions, ouvertes par la classe, les secteurs lucides de la classe dirigeante. Et Giscard d'Estaing va emboîter le pas. Il faut savoir que Chaban-Delmas, sa politique, il l'a mené. Qui était le chef de cabinet de Chaban-Delmas à l'époque? Jacques Delors. Bon, à la fois, bon, Jacques Delors, chrétien social, etc. Bon. Giscard d'Estaing arrive, nouveau slogan, la nouvelle société. Le libéralisme, non pardon, après la nouvelle société, le libéralisme avancé. On autorise les films porno, on interdit la censure, enfin je ne vous donne pas tout le détail, et au fur et à mesure de la progression de la petite bourgeoisie intellectuelle, notamment ses élites, ses représentants dans les appareils universitaires, la radio, la télévision, le cinéma, la recherche, le CNRS et tout ça, au fur et à mesure qu'on ouvrait les vannes, justement j'en reviens là, de la liberté, c'est là que bon, un sociologue stalinien va inventer le concept pour qualifier ces gens-là, y compris comme Bendit, de libéraux libertaires, que ces gens-là vont reprendre à leur compte, mais le stalinien en question, le sociologue, pour eux, pour lui, c'était stigmatisant. Ce sont des libéraux libertaires, on s'entend dit, des pseudo-libertaires au service du libéralisme. En revanche, eux vont reprendre ça à leur compte, à la main, comme Bendit, en disant que c'est très bien. Nous sommes des libéraux libertaires. Et, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il s'est passé qu'on a renouvelé ce qu'on appelle l'alliance de classe, qui permet dans un pays capitaliste développé à la bourgeoisie de continuer à dominer, renouvellement de l'hégémonie bourgeoise, alliance de classe entre la bourgeoisie et la petite bourgeoisie intellectuelle, celle qui est préposée aux tâches de médiation entre direction et exécution, conception, organisation, contrôle, inculcation, etc., enfin formation, etc. Bon, je vous résume ça très vite. Je dis ça au prof, et il me dit, ah, c'est intéressant, vous devriez rencontrer Georges Pompidou, je déjeune avec lui très souvent le mardi dans tel restaurant. Ça serait intéressant que vous lui parliez de cela, parce que je crois qu'il a un peu les vues communes avec vous. Ah, bon, j'ai dit par curiosité, j'y vais. On a été bouffé dans ce restaurant. Les pompons, ses gardes du corps étaient en bas sur le quai de la Seine, on était dans la salle du restaurant. Bon, au début on parle de choses et d'autres, mais très rapidement. Alors, il paraît que vous avez une théorisation intéressante sur mai 68, etc. Pompon. Alors je lui explique ce que je viens de vous expliquer, en évitant les gros mots ou les jeux de mots, enfin bon. Et il me dit, bah écoutez, moi je ne suis pas marxiste, mais je vais vous dire, je suis largement d'accord avec votre interprétation, et c'est aussi celle que nous avions avec M. Edgar Faure. Edgar Faure, c'était le ministre de l'Éducation, et avec M. Maurice Grimaud. Maurice Grimaud était le haut fonctionnaire qui était préfet de police de Paris au moment de la répression de mai 68. Et quand le général de Gaulle, c'est pas moi qui parle, maintenant c'est Pompon, quand le général de Gaulle est allé à Baden-Baden prendre contact avec le général Massu pour faire intervenir l'armée, pour mettre fin à la chienlit, comme disait le général, terme que n'approuvait pas du tout Pompidou, agrégé de lettres, bon, il n'y a pas le langage de corps de garde de Gaulle, nous avons dit, mon général, tous ces agités révolutionnaires avec les drapeaux rouges, les portraits de Marx et Lénine, dans la cour de la Sorbonne, vous n'allez tout de même pas faire tirer sur eux, c'est l'élite qui va gouverner la France demain. Et on était trois, il y avait donc Maurice Grimaud, la consigne était pas un mort de plus, il n'y avait pas eu de mort d'abord, il y a eu des blessés, mais il y a eu de mort. Et Edgar Faure a dit, c'est parfait, oui, ces gens-là, il faut leur créer des structures d'accueil pour qu'ils se calment. Et il a dit, je vais vous dire une chose, Repompidou. Eh bien, M. Edgar Faure a eu l'idée de créer une université dans le bois de Vincennes. Il a contacté avec ses amis un certain nombre de gens. Michel Foucault, Gilles Deleuze, enfin je ne vous donne pas la liste, hein, Claude Friou, membre du Parti communiste. Pour créer, puis d'autres, je ne vais pas vous faire la liste des gens qui étaient contre Yves Lacoste, enfin pas un géographe, pour créer une université, alors ce que va dire Pompidou, c'est bien, parce que somme toute, on crée une université dans le bois de Vincennes, on va leur créer, à ces gauchistes, ces intellectuels, ils feront la révolution dans les salles de cours, et on aura la paix dans la rue. Texto, fin de citation. Et ça, c'est effectivement ce qui s'est passé aussi. Vous voyez, il faut savoir quand même, quand on parle du nouveau fasciste, quand la bourgeoisie n'était pas menacée à cette époque, faut pas l'oublier, ils ont eu la trouille, ils ont très bien compris. Dans la foulée de 68, il y a eu déclenchement de grèves dites sauvages. Rappelez, hein, pour les plus vieux, hein, le voix français, le machin avant, etc., l'IP, enfin tout le bordel. Des grèves sauvages, c'est-à-dire des grèves qui n'étaient pas encadrées par la CGT, etc. Là, ils rigolaient plus. Et le problème, c'était de dissocier les néo-petits bourgeois révolutionnaires, entre guillemets, des ouvriers qui commençaient à bouger beaucoup, notamment dans les usines qui étaient décentralisées, qui étaient à la campagne. On disait, il n'y a pas de syndicat, donc ça sera docile, manque de peau. Là où c'était le plus virulent, c'est le CGT la plus faible. Il fallait éviter une jonction entre les deux. Ouvriers paysans, comme disaient certains. Pas ouvriers paysans, intellectuels ouvriers. Et donc, les intellectuels, on pouvait, non pas les acheter, c'est pas le mot, mais on pouvait leur offrir, somme toute, comme ils ont utilisé le mot, les structures d'accueil qui leur permettraient de se calmer. Ils se sont calmés. La contestation, entre guillemets, s'est terminée en 1975. 14-15. Voilà. Tout ça pour la tolérance répressive. Et c'est pour ça que je ne parle jamais de trahison. Bernard Arévalo n'est pas un traître. C'est un petit bourgeois, un grand bourgeois radicalisé, qui à un moment donné était furieux de ne pas être reconnu, mais ce n'est pas un problème individuel ou moral. C'est une classe entière qui aspire au pouvoir, qui estime que sa part dans la société au plan politique n'est pas à la mesure de la part qu'elle occupe au plan économique, culturel, etc., et qui se radicalise. Ça a été pareil en Espagne. Barroso, pour prendre un exemple, président de la Commission européenne, chantre du libéralisme, portugais, il était maoïste en 1975, au moment de la révolution des œillets. Felipe González, maoïste, premier ministre en Espagne. Je pourrais faire la liste, hein. Mais ce n'est pas des individus. C'est une classe entière qui, à un moment donné, en Europe du Sud, je répète, c'est uniquement valable pour la France, pour l'Italie, pour la Grèce, pour le Portugal et l'Espagne. Point. Pas du tout passé. Voilà. Ça, c'est. Et voilà comment. Et ils font la révolution, effectivement. On fait des analyses sur le pouvoir. On en croque. Le mandarinat universitaire, c'est une forme de pouvoir. On gueule contre le pouvoir, mais on a un mandarin. Si vous voyez, je ne vous donnerai pas, parce que là, j'ai vu, moi j'ai enseigné à Vincennes, à Paris 8, j'ai vu sur le terrain Michel Foucault, comment ça fonctionnait. Avec des gourous, des admirateurs, des rapports de force. Et s'il fait intervenir la franc-maçonnerie dans l'affaire, alors là on n'en sort plus. Tiens, c'est un sacré. Bon, ouais, là on va tomber dans la rubrique people. Mais, oui, les promotions canapé qui ont joué un très grand rôle aussi. Non, bah là, on n'en sait rien, mais je parle dans les facs et dans les trucs de recherche, c'est pas mal. Je parle entre gens bien, hein, c'était pas un ministre qui se paie un vanupier marocain. Si tant est que ce soit vrai. Hein? Bon, là, ça dérive, hein, là, quand même, on est dans le grave. Bon, je crois que vous en avez peut-être, vous n'êtes pas trop saturé, ça va? Quelle heure il est, là? Ah, merde, il est quelle heure? Quoi? 9h moins le quart? Ah oui, effectivement, c'est un peu long. Non, mais vous auriez pu m'arrêter, hein. Vous auriez pu m'arrêter, hein. Je ne me rends pas compte de l'heure, j'ai pas regardé la montre. Je ne fais pas comme les conférenciers qui mettent une montre sur une table, ça fait bien. Bon, enfin, je vous recommande, moi j'ai pas de droit dans la...